Vous écoutez
RMC. RMC, 18h-20h, Roten sans flamme.
Jean-Louis Tour, Jérôme Roten.
18h04 sur RMC, bonsoir à tous, bienvenue dans Roten sans flamme, comme tous les jours de la semaine. Vous en avez l'habitude, du lundi au vendredi, de 18h à 20h. On passe une excellente semaine internationale. Et oui, on va continuer nos débats, les matchs commencent ce soir. Et oui, on a hâte de voir les sélections reprendre. Il y a des bons matchs ce soir, il y en a surtout un gros demain pour l'équipe de France. On va encore en parler aujourd'hui avec Kylian Mbappé, qu'on a vu en conférence de presse, qu'on a écouté. On va pouvoir en reparler ce soir avec Jean-Louis Tour. Salut Jean-Louis.
Salut Jérôme, salut tout le monde.
Ça va?
Ouais, très bien, très bien.
On était attentif à la conférence de presse de Kylian Mbappé.
Ouais, il est trop fort. Dans cet exercice, il est trop fort.
Ah ouais, ça nous a changé de d'habitude, du moins des 10 dernières années.
M'a rappelé les zones mixtes de Jérôme Roten, ça. Après les matchs, énervé.
Ouais, c'est pas faux. En tout cas, il y a des choses à dire et on le remercie encore de se livrer autant et de nous raconter du football.
Ouais.
Voilà, c'est ce qu'on attend. Et bien sûr qu'il y en a un qui est aussi été moins performant en conférence de presse. On aurait aimé qu'il soit aussi bon qu'il l'a été quand il était consultant et qu'il l'est encore quand il est consultant. C'est Christophe Dugarry. Salut Christophe.
Salut mon Jérôme. Salut Jean-Louis. Salut,
salut
à tous.
Dugas.
Ouais, ça va mon poulet. D'ailleurs, j'avais une question. J'ai pas écouté la conférence de presse de Kylian. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui lui a posé la question? Comme c'est un garçon qui aime parler football, est-ce qu'on lui a posé la question sur les 80 minutes qui s'est passé en finale de la Coupe du Monde?
Non, mais pour le coup,
ça serait. Ah ouais, ça serait intéressant de savoir. Il était sur le terrain, il a vu ce qui s'était passé, il a pu réagir. Qu'il nous raconte sa finale. J'aimerais bien, tu vois, un spécial Mbappé qui me raconte sa finale. Comment il a vu tout ça?
Bah écoute,
ça serait hyper intéressant.
Je vais missionner les journalistes RMC Sport qui font les conférences de presse. Et à la prochaine conf de Mbappé, donc avant le prochain match, là, dans 3 jours, il y aura cette question posée.
Ah ouais, ça va lui faire plaisir. Ah, ça va faire plaisir à Deschamps surtout. Trois jours avant un match, pour reparler de la finale.
Ah oui, à mon avis.
Ça va lui faire plaisir.
Oui, alors, pas sûr que, vu comment il se balade pour répondre ce qu'il veut, Kylian Mbappé, pas sûr qu'il répondre. Mais bon, il a la franchise aussi. Donc,
il aime parler football quand même. Après, bon, là, c'était il y a déjà plusieurs semaines, plusieurs mois. Bon, c'est bon. Allez, on peut. Je pense que ça vaut le coup. Ça mériterait
la question sera posée.
Ça mériterait la question.
Ce soir, Roten sans flamme, donc sur les Bleus. Demain, c'est France-Pays-Bas, qualif de l'Euro. Peut-être la première titularisation pour Randal Kolo Muani à la pointe de l'attaque. Celui qui aurait pu offrir une Coupe du Monde à l'équipe de France. Sans cette fameuse action en finale. Un raté. Peut-il hanter une carrière? Est-ce qu'une action comme ça peut hanter toute une carrière?
Je comprends pas comment on peut rater une frappe comme ça en finale.
C'est fou.
Bah lui, j'aurais préféré qu'il la mette au poteau de corner. Comme ça, au moins, il aurait fait comme son idole de l'époque.
C'est fou. Mais moi, je me suis pas cassé la tête. J'ai tiré à côté. C'est
Dugarry, Kolo Muani, Gignac. Une action ratée peut-elle hanter une carrière? Ce sera à 19h32-16 si vous voulez participer au débat. À 18h30, Cristiano Ronaldo sera l'accusé du soir. Accusé de devenir un poids pour sa sélection, 38 ans, il est toujours là, toujours envie de commencer tous les matchs, ça veut dire que c'est peut-être un monstre, un dossier à gérer pour le nouveau sélectionneur. Le débat tout à l'heure dans Faites Entrer l'Accusé, à 18h45, Julien Cazard, qui s'est procuré la discussion entre Mbappé et Griezmann au sujet du capitana. Donc soyez là à 18h45 pour l'entendre. Et puis on a toujours des places pour France Pays-Bas à vous offrir, c'est demain, si vous voulez aller au Stade de France, envoyez Euro par SMS.
C'est ce match-là, hein. Rien d'autre.
Ah oui, exactement. Euro, E-U-R-O. Au 7-32-16, donc, pour vous inscrire. Mais tout de suite, la jungle a donc son nouveau roi.
Kylian Mbappé face à Martinez.
Moi, tu me parles pas d'âge. Quand je suis là, tu me parles jamais d'âge. Tu me parles que de football et de niveau.
Toutes les cases pour l'être à un moment ou un autre. C'est naturel et logique que Kylian le soit.
Moi, Mbappé, à la fin du match, je l'attends, je le prends et je lui mets un putain de coup de tête.
Non, on n'est pas là pour prôner la violence.
C'est fou.
Quelle violence. Jean-Louis, tu l'as préparé, ça, la jungle, un nouveau roi. C'est magnifique,
L'émission est préparée, hein. Ça change il y a quelques années, ouais, effectivement.
Ah, bah oui, non, bah, ça a bien changé. C'est pour ça que c'est mieux avec Jérôme. C'est ça.
Voilà, c'est ça. Je ne sais pas si c'est mieux, mais. En tout cas, putain, il avait dit putain sur Mbappé aussi. Ouais. Tu l'avais repris comme tu m'as repris hier,
je pense.
Non, je crois pas.
Je reprends à chaque fois.
C'est ça.
Non, là-dessus, je l'ai repris. Je m'en souviens très bien.
Il te mangeait sur la tête.
C'est pourquoi c'était ce coup de tête. Tu t'en rappelles du gars au moins?
Je crois que c'était à cause du pénalty, non? Il avait pris le pénalty à Cavani.
Je crois que c'est même pas le pénalty. Je crois que c'est une action où il oublie complètement Cavani sur un 2 contre 1, un truc évident. Et voilà. Donc,
Et tu lui en voulais.
Ah oui, pour respecter le jeu.
Exactement. Ah, c'est le genre de truc, oui, qui peut créer des problèmes dans le vestiaire au retour.
Ça, voilà, c'est sûr.
Mais bon, si c'est pas le cas, tu gardes un abcès, tu gardes des regrets, des remords, des rancœurs. Je pense qu'il vaut mieux régler le problème rapidement.
C'était il y a longtemps, parce que maintenant, c'est Mbappé le capitaine, le fédérateur. Première conférence de presse donc il y a quelques minutes pour lui. Il a d'ailleurs expliqué ce qui s'est passé avec Antoine Griezmann. Il a sollicité une discussion justement pour crever l'abcès sur la déception qu'a ressenti Griezmann de ne pas avoir été choisi comme capitaine.
Ouais, j'ai parlé avec Antoine parce qu'il était déçu et franchement, tout honnêtement, c'est compréhensible. Je lui ai dit qu'à sa place, j'aurais peut-être la même réaction. Il a 32 ans, il a passé 10 ans en équipe de France. Ça a été un joueur plus qu'important, peut-être l'un ou le joueur le plus important de l'ère Didier Deschamps. Ce que je lui ai dit, c'est que lorsque moi je suis capitaine et lui vice-capitaine, je suis pas son supérieur hiérarchique. Il a une expérience en équipe de France que j'ai pas. Il est arrivé en équipe de France avant moi. J'étais au centre de formation, il était déjà là. Et bien sûr qu'on va être lui et moi main dans la main pour essayer de faire régner cette équipe de France au niveau européen et au niveau mondial. Donc il y aura pas de moi devant, lui derrière. On sera côte à côte. S'il a quelque chose à dire devant le groupe, même moi je m'assois et j'écoute. Voilà, c'est comme ça.
Voilà, Mbappé obligé donc de faire de la politique, d'aller parler avec Griezmann.
Il est bon quand même.
Ah, il est très fort.
Il est bon.
Effectivement,
il est très bon. Il y a pas à dire. À partir du moment où il répond à la question, ce qu'il dit, c'est parfait.
Exactement. Alors donc il doit quand même maintenant qu'il est capitaine, composer avec les autres, fédérer, discuter, faire de la politique comme avec Antoine Griezmann. On sait aussi qu'il est très engagé en dehors du terrain, Kylian Mbappé. Et d'ailleurs dans cette conférence de presse, il a bien dit que le fait d'être capitaine, ça changera pas son discours et ses différents engagements. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque qu'il s'éparpille un peu, qu'il se perde Kylian Mbappé avec tout ça? 32-16, appelez-nous pour en débattre.
Il n'y a pas de risque dans le sens où il l'a bien expliqué. Alors bien sûr qu'il y a un discours politique sur certains sujets qui va dans le sens du vent. La réponse sur Antoine Griezmann, on sait aussi très bien, et Kylian n'est pas obligé de nous le dire, mais on le voit, que c'est pas les deux meilleurs amis du monde. Donc automatiquement, il doit faire avec. Bien sûr qu'il est aujourd'hui dans la hiérarchie supérieure à Griezmann, sinon il n'aurait pas été choisi capitaine. Mais c'est plus facile à l'expliquer comme ça, dans ce sens-là. Je pense que Antoine Griezmann n'aurait pas eu la même explication dans tous les cas. Après, encore une fois, quand je te dis éparpillé, il est tellement intelligent, c'est tellement un robot, c'est tellement un surhomme que automatiquement il va pas se laisser polluer par ce rôle de capitaine, de capitana. Déjà, la priorité, et je suis persuadé qu'il va avoir, c'est de briller sur le terrain, d'être décisif, de faire son rôle déjà sur le terrain avant de donner des leçons et de parler dans le vestiaire. Parce que quand il parle et quand un capitaine parle, plus il parle, moins c'est bon signe. Parce qu'en général, quand tu parles, c'est pour essayer de réveiller tout le monde, pour essayer de bouger tout le monde. Comme il l'a fait à la mi-temps, on avait vu des extraits lors de la finale. Ouais. Où ils étaient tellement à la ramasse sur la première mi-temps. Et on te rappelle, Jean-Louis, on y était, qu'il avait haussé le ton. Et pourtant, il n'était pas capitaine. Là, je te dis pas qu'il se forcera à le faire parce qu'il est capitaine. Il le fait parce que c'est naturel. Encore une fois, moi je te dis, ça aurait été quelqu'un d'autre, peut-être qu'il serait laissé polluer et que la pression du capitana aurait peut-être fait déjouer la personne. Mais lui, il est hors catégorie. Du moins, moi je suis personne pour le juger. Et encore une fois, je trouve qu'il est tellement fort quand il était sur le terrain qu'il peut faire des différences à n'importe quel moment, comme Zinedine Zidane à l'époque, comme Michel Platini à l'époque, que je vais le laisser faire. Mais moi, je pense que c'est le capitaine qu'il nous fallait dans tous les cas, ouais.
Du gars, il y a un risque qu'il s'éparpille ou pas ?
Ah, moi, j'y crois, oui. Oui, je pense qu'il peut y avoir un risque. À vouloir s'occuper de trop de choses, tu conduis le bus, tu fais la garderie, tu fais descendre les enfants, enfin, il veut tout faire, quoi.
Ouais, mais il le faisait même avant, du gars.
Oui, mais en plus, oui, mais après, c'est pour ça que son discours, il est parfait, sincèrement, politiquement, il est très politiquement correct. C'est ce qu'il fallait faire, c'est cette façon dont il fallait parler. Après, il aurait pu très bien dire aussi à Griezmann, voilà, t'as 32 ans, le brassard, je te le laisse. Ça aurait été bien aussi pour le sens du collectif. Après, attention, moi, Mbappé, il est exceptionnel. Tout ce qu'il fait, c'est exceptionnel. Après, je trouve que dans l'attitude sur certains de ses matchs, il mérite des coups de pied au derrière. Mmh. Donc j'espère que ça ne va pas inhiber les autres pour lui mettre. Parce que le Mbappé qui joue la carotte,
on le voit.
Alors, la question lui a été posée dans la conférence de presse et il a bien dit, moi je fais ce que le coach me demande.
Oui, alors, de marcher peut-être pas.
Sous-entendu, il me demande de rester haut pour aller marquer les buts et donc de ne pas défendre.
Enfin, Duga, il est tellement fort que c'est quand même lui qui tire les autres, quoi.
Oui, mais Jérôme, c'est jamais bon. Attends, le plus fort de tous les forts, c'était Zidane. Ouais. Et jamais tu t'es dit ou lui s'est dit, bah, écoute, je suis tellement fort que les autres ils vont courir par moi, je vais tout décider.
Mais il avait pas le même rôle sur le terrain, du gars.
C'est pas le même rôle, mais les deux sont censés être décisifs. Et les deux étaient décisifs. Oui, ils ont pas le même rôle. Mais Mbappé, de temps en temps, il mérite un petit coup de pied au derrière contre le Bayern. Alors tu vas me dire, c'est Galtier qui lui a dit de jouer la carotte devant. J'en connais pas, moi, des entraîneurs qui disent, mon petit, reste devant, joue la carotte, mets-toi à la limite, et puis tu pars en profondeur. Si c'était ça la tactique du Paris Saint-Germain, pourquoi pas? Est-ce que c'est ce qui va se passer
ça,
aussi? Ouais, alors c'est pareil. Donc ça, une nouvelle fois, Griezmann à 32 ans, il va courir comme un lapin, comme tous les autres, et puis Mbappé va attendre la carotte devant.
Ouais, mais tu trouves qu'en équipe de France, il fait la même chose qu'au Paris Saint-Germain?
Écoute, il a été transparent contre les Anglais, il a été transparent contre les Marocains, il s'est réveillé les 20 dernières minutes où il a été exceptionnel face, il a aussi disparu comme les autres sur ces matchs-là. Et je trouve que par moment, il fait pas beaucoup d'efforts. Il est décisif, il est génial, il est tout ce que tu veux. Est-ce que tu peux te permettre aujourd'hui dans le football avec les égos qu'il y a, parce que moi ça me dépasse ce débat d'un chiffon autour du bras, ça me dépasse. Sincèrement, je comprends pas. Je comprends même pas qu'il y ait un débat. Je comprends même pas l'ego qu'il y a derrière
l'équipe
tout ça.
De France, c'est important.
Mbappé, c'est un kiff,
mais
une
non.
énorme émotion quand il a appris.
Du gars, tu peux pas dire ça. Tu l'as connu. Ce que je veux dire, tu l'as connu plus que moi. T'as eu des grands capitaines, des capitaines qui représentait l'équipe de France, et naturellement le plus grand joueur à chaque fois, mais comme par hasard il se retrouvait avec le brassard de capitaine.
Mais ça veut dire quoi, Jérôme? Grand joueur, tu penses que Griezmann, avec la coupe du monde qu'il a fait, il mérite pas d'être capitaine? Ça veut dire quoi, cette hiérarchie? Mais cette hiérarchie que tu mets aujourd'hui,
pas,
et que les joueurs
et que
les joueurs se mettent entre eux. Quand Mbappé, tu dis numéro 1, numéro 2, il y a une espèce de hiérarchie qui se met dans l'équipe. Moi, ça me dérange. Ça veut dire quoi? Parce que quand il y a la Coupe du Monde à soulever, comme c'est le capitaine qui la soulève, il faut être sur les photos. Mais dans ces conditions, prends pas le meilleur joueur, prends le plus beau. Parce que sur la photo, il faut le beau gosse qui soulève la coupe.
Ouais, mais le beau gosse, c'est peut-être ça. Alors, ça aurait été toi en 98, si on parle.
Mais par exemple, ça fait plaisir. Non mais tu vois, à un moment, c'est quand même un discours. Alors, je comprends, je suis peut-être dépassé, je suis peut-être un vieux réac, c'est possible, mais je suis dépassé par ce genre de discours. Comme je l'ai souvent dit, Jérôme, j'ai pas été un grand joueur, mais j'ai eu la chance au Milan, au Barça, de jouer à l'équipe de France, de jouer avec des grands joueurs. Ça n'a jamais été un débat, ça n'a jamais été un problème, ça n'a jamais été un sujet.
Parce que c'était naturel, Duga, c'est naturel. Là, ce qui s'est passé après la Coupe du Monde, naturellement, on se pose la question, quels vont être les nouveaux leaders de Didier Deschamps?
Il leur met tous un bout de chiffon, alors. J'en sais rien. Non, mais sous le maillot, tu mets un bout, ils vont croire qu'ils ont le brassard.
Autant en club, par moment, tu peux dire, il y a certains joueurs qui ont ce bout de chiffon sur le bras. Autant en équipe de France, ça représente quelque chose, quand même.
Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, Jérôme, soyons factuels. Qu'est-ce que ça représente?
Normalement.
Pour toi, quand un entraîneur, voilà, je te désigne capitaine de l'équipe de France. Quel rôle tu te donnes? C'est quoi pour toi?
Non, le pouvoir, c'est déjà l'importance que tu as dans le groupe, déjà sur le terrain, parce que
ça,
moi
c'est
je parle
la plus grosse.
Pas du tout, je parle de l'importance que tu as sur le terrain. Ça veut dire que tu es un des joueurs qui doit être décisif et emmener les autres. Déjà pour moi, ça doit être un relais. C'est pour ça que offensivement, quand les capitaines sont offensifs, attention, quand ils sont défensifs, c'est différent. Mais quand ils sont offensifs, je pars du principe que tu es le relais idéal pour le collectif, pour essayer de faire gagner le collectif. Après tu dois être un exemple et défendre l'institution, défendre l'équipe de France, défendre le maillot de l'équipe de France. Je pense que il y a pas mieux dans la façon de s'exprimer que ça soit Kylian Mbappé aujourd'hui. Et après, tu dois être aussi le relais, c'est-à-dire le relais de l'entraîneur, parce que tu es aussi là pour défendre l'entraîneur, ce qu'il met en place, les idées qu'il a.
Si t'es le relais, tu prends un milieu de terrain ou un défenseur central. Je suis pas un attaquant qui joue à mon avis trop souvent la carotte pour marquer le plus
plus de buts possible et jouer pour ses stats. C'est dans cette logique-là.
Je te rejoins à 200% de ce que tu viens de dire. C'est pour ça que je mettais un bémol sur le fait que Kylian soit choisi capitaine, parce que c'est pas du tout la façon de penser, la philosophie de Didier Deschamps. Et c'est pour ça que là, tout va être remis à zéro. Parce que s'il accepte qu'un capitaine, que son capitaine soit comme Kylian Mbappé, et tu l'as dit, c'est-à-dire que il joue pour ses stats, il joue aussi pour faire gagner l'équipe, mais il joue très souvent dans l'individualisme par rapport au collectif. Et ça, en effet, c'est complètement différent, et c'est pour ça que s'il avait vraiment eu toutes les cartes en main, Didier Deschamps, il aurait choisi Griezmann, sans aucun doute. Mais par rapport à plein de choses, par rapport à ce que représente aujourd'hui Kylian Mbappé en France, l'image qu'il a, je pense qu'il pouvait pas faire autrement que de mettre capitaine.
Moi, je trouve ça un peu normal, sincèrement, qu'il choisit, il peut choisir Mbappé, il peut choisir Griezmann, il a choisi Mbappé, pourquoi pas. Moi, ça me choque pas qu'il soit capitaine. Je suis assez surpris, je te cache pas, de la réaction de Griezmann. Voilà, je pensais qu'il en ferait pas tout un pataquès et que ça le décevrait pas. Tu peux avoir une petite déception, allez, si tu veux. Mais putain, quand t'as 32 ans, qu'il a fait ce qu'il a fait, ce qu'il montre sur le terrain, ta reconnaissance, c'est le brassard que l'on va te donner. Moi, je te retrouve ça.
Comme quoi, du gars, l'ego et de ces joueurs-là. Et moi, je me cache pas non plus. Ce que je veux dire, peut-être que j'aurais eu la même réaction de Griezmann si j'avais été à sa place. Je suis honnête. À 32, et Kylian l'a expliqué. Ouais. C'est le plus ancien. C'est vraiment le relais idéal. Il a été défendu corps et âme par le sélectionneur Didier Deschamps contre vents et marées, même quand il n'était pas bon sur le terrain. Je répète, avant la Coupe du Monde, il n'était pas bon sur le terrain. Donc, pour tout ça, si tu veux, vu qu'il a fait une Coupe du Monde exemplaire, et tu l'as dit, du gars, bah, logiquement, alors, ça devait être Antoine qui devait être capitaine, donc sa déception, elle est là.
On va donner la parole à
qu'il soit déçu.
Ethan, dans une seconde, juste avant, autre extrait de la conférence de presse de Kylian Mbappé, comment il voit son rôle de capitaine, il l'a expliqué.
Il y a des fondamentaux en tant que capitaine qui est pas possible de bouger, mais après c'est en fonction de la personnalité de chacun. Après chacun est le capitaine qu'il pense être. Moi je pense que je vais être un capitaine qui va être tourné vers les autres, qui a pas une grande expérience dans le capitanat. Donc je sais qu'on a des joueurs importants dans l'équipe. Là j'ai pas envie de décider, d'imposer. Voilà, j'ai envie d'ouvrir la possibilité aux autres de s'exprimer. Je pense qu'on est un groupe uni. On a montré lors de nos grandes performances que lorsqu'on était tous ensemble et que chacun avait sa place, eh ben on était capable de faire de grandes choses. Je pense que ce serait une erreur pour moi de bouleverser tout ça.
Voilà, capitaine fédérateur.
Il est bien. Non mais c'est bien ce qu'il dit. Mais s'il est vraiment tourné sur les autres, il donne le brassard à Griezmann.
Encore une fois, il a dit que pour lui, c'était un kiff. Être capitaine de son pays, c'était une émotion énorme, une joie énorme.
Et après, ça va être le Paris Saint-Germain aussi, parce qu'il va être capitaine du Paris Saint-Germain aussi l'année prochaine.
Mais Dugas, moi, je pense que par rapport à son discours, c'est que on sent vraiment l'approche. La fierté, mais surtout le fait qu'il est inexpérimenté pour avoir le brassard.
Parce que
tout ce qu'il dit, il y a des choses, ça n'a pas lieu d'être. Ce que je veux dire, c'est pas parce que t'as le brassard
Il en dit presque trop, je
crois. Ouais, il en dit trop, c'est ça. C'est pas parce que t'as le brassard que tu dois recadrer un tel, tu dois faire ça.
Non,
t'es pas un entraîneur. L'entraîneur, il est dans son rôle.
C'est vrai que quand tu l'entends, t'as l'impression qu'il a plein de décisions à prendre.
Il me fait penser, du gars, je vais te dire, parce que j'ai joué avec lui, et même si on s'est accroché il y a quelques années à Pat Evra. Mais Pat était totalement comme ça. Tu lui as donné le brassard.
C'est pas très bien passé.
Non, mais pas très bien. Mais je pense que, parce que il était rattrapé par la patrouille, parce qu'il avait l'impression de tout gérer.
Il nous l'a même expliqué. Et voilà, c'était avec Dominique.
J'espère, sauf que là, il en dit beaucoup quand même, Kylian.
C'est pour ça qu'attention, Kylian. C'est ce que tu disais par rapport à ton débat, Jean-Louis.
Ouais, c'est pas faux.
Attention.
C'est la question que j'allais relancer. Mbappé, peut-il s'éparpiller? Est-ce que le risque existe? Ethan nous rejoint sur RMC dans Rotten sans flamme au 32-16.
Salut, Ethan.
Salut, tout le monde, comment ça va?
Bien, tout va bien, Ethan. Tu nous appelles d'où?
De Plouvorne, dans le Finistère.
D'accord. Ah, bon. Très belle région. On embrasse tous les Bretons, bien sûr.
Merci.
Tu nous as entendu avec Dugas là sur Kylian Mbappé. Qu'est-ce que tu penses là, toi, de Kylian Mbappé? Je ne sais pas si tu as entendu sa conférence de presse.
J'ai lu quelques extraits.
Est-ce que tu attends de son rôle de capitaine?
Moi, déjà, ce que j'attends d'un capitaine, c'est pas vraiment qu'il soit un entraîneur comme vous l'avez dit, mais qu'il soit plutôt comme le relayeur des consignes de l'entraîneur sur le terrain. Plutôt comme ça. Et je trouve que Kylian Mbappé, c'est quelqu'un de parfait pour ça, parce qu'il a l'expérience, il a peut-être pas l'expérience qu'a Olivier Giroud, qu'a Antoine Griezmann, qu'a Paul Pogba s'il revient un jour. Mais il l'a quand même, et je trouve que déjà avec l'image qu'il a auprès des Français, je trouve que ça concorde bien. Maintenant, moi je pense qu'il prendra pas trop de place en équipe de France, de mon point de vue à moi, mais le seul doute que j'émets par rapport à ça, c'est au niveau des joueurs de l'équipe de France, avec l'exemple parfait d'Antoine Griezmann, c'est que les joueurs s'agacent un petit peu du fait qu'on donne toutes les responsabilités à Mbappé, que c'est lui qui marque les buts, donc c'est lui qu'on va propulser au devant de la scène auprès des Français, que les Français vont adorer, et en plus maintenant
il paraît qu'il va être chauffeur du bus aussi. Ils sont en train de réfléchir, ils savent pas.
Voilà, c'est qu'il est trop de responsabilités.
Non, ils vont prendre Franck Ribéry.
Je pense que ça agacera peut-être les joueurs, dont Griezmann.
Ouais. C'est après.
Il veut beaucoup de choses. Il veut beaucoup de choses. Jérôme Mbappé, il veut beaucoup de choses.
C'est vrai.
On lui donne tout. Sincèrement, on lui donne tout. Alors, je parle pas de caprice parce que c'est pas un caprice. Il a beaucoup d'envie, ce garçon. Il a beaucoup d'ambition.
Est-ce qu'il va participer au compo, à votre avis?
Non, au compo.
Il va pas donner son avis quand même.
Jean-Louis, arrête.
On a vu des capitaines. Donc là, vous allez me dire que Didier Deschamps, quand il était capitaine en 98, il a jamais eu son mot à dire sur le choix des joueurs.
Jamais, même si c'était le relais idéal. Et du gars est mieux placé.
Et Zidane en 2006, quand il est revenu, il est venu avec ses joueurs aussi.
Mais non, mais attends. Zidane a peut-être par moment choisi le groupe. La preuve, c'est que moi, il m'a mis dehors en 2006.
Bon, voilà.
Mais sinon, non. Mais je pense que dans les mais après, on va pas parler de l'époque Zidane quand il était capitaine. Il était avec Raymond Domenech, sélectionneur. Excuse-moi. Il y avait pas de sélectionneur. Là, t'as quand même un mec charismatique, un mec qui a marqué les années de l'équipe de France. Didier Deschamps. En aucun cas, Kylian, il va intervenir sur la composition d'équipe. C'est hallucinant. Après,
moi, Jean-Louis, il a pas complètement tort quand même. Il y a eu. Non mais. C'est la vérité. Tu demandes à Cantona ou à David Ginola, ils vont te dire que c'est Deschamps qui les a fait virer de l'équipe de France.
Ou Ibrahimba.
Ou d'autres. Donc, je pense que c'est déjà arrivé qu'un sélectionneur demande pas les compositions d'équipe, mais certaines affinités, oui, je pense qu'à un moment, après, je pense que Deschamps, il le fera pas. Mbappé, pour l'instant, il a 24 ans. Faut en plus qu'il fasse la compo. Et l'organisation. Et on joue comment? Enfin, après, je sais pas comment Deschamps voit le rôle d'un capitaine. Après, si Deschamps, il prend un capitaine pour qu'il soit comme lui, il était.
Bah, il aurait pas pris Kylian Mbappé.
Ah oui, là, c'est raté, là.
C'est
ce que je te dis, du gars.
Aujourd'hui, on a beaucoup d'inconnus. Il va avoir un capitaine qui va passer plus de temps dans le bureau du président ou dans le bureau du coach que dans le vestiaire avec ses copains, quand même.
Mais je pense que tu as raison sur le fait d'avoir mis Kylian Mbappé capitaine. C'est qu'il va falloir que tu gagnes les matchs. Parce que quand tu les gagnes pas, avec Kylian Mbappé capitaine et Didier Deschamps sélectionneur, vu qu'ils ont pas la même façon de voir les choses devant les médias. Parce que Kylian, et tu l'as dit, du gars.
Tu vas lui parler
de football. S'il est pas content, il va te dire la vérité de ce qu'il a ressenti.
Bon, on verra ça.
La preuve, demande à Olivier Giroud.
Il prend son rôle tellement à cœur, il est tellement là. Ça va être intéressant.
On remercie Ethan qui est venu réagir au 32-16. Et dans une seconde, Cristiano Ronaldo, est-ce qu'il est un poids pour la sélection portugaise?
Mais qui touche à mon Cristiano?
Qui touche à ton kiki?
Ouais.
Tu vas voir dans une seconde.
Mais non.
RMC, 18h20, Roten sans flamme.
Jean-Louis Tour, Jérôme Roten.
18h31 sur RMC, la deuxième demi-heure de Roten sans flamme du soir avec Christophe Dugas et avec Jean-Louis Tour. Ratez pas le moment de Julien Cazard à 18h45. C'est un grand moment comme hier. C'est un excellent Julien Cazard en ce moment. On est là jusqu'à 20h comme tous les soirs, donc restez bien à l'écoute. Tout est en podcast. Vous pouvez déjà télécharger tout ce qu'on a pu dire sur la première demi-heure, mais attendez quand même parce que là, il y a encore des bons débats. Commencez par le fait d'entrer l'accusé sur Cristiano Ronaldo, Jean-Louis.
Allez, on y va.
RMC, Roten sans flamme.
La cour décide que des éléments suffisants ont été réunis pour déférer l'inspecteur
Jérôme Roten
devant la cour d'assises. Le procès devra avoir lieu dans les plus brefs délais.
Faites entrer l'accusé.
Il est donc toujours là. Cristiano Ronaldo, 38 ans. Il va sans doute honorer une 196e sélection. Marquer peut-être un 119e but face au Liechtenstein ou au Luxembourg, les deux matchs qui attendent le Portugal. Ça, c'est ce qu'on envisage de façon positive, mais on peut aussi avoir quelques doutes sur la présence de la star portugaise en sélection. Est-ce qu'il va offrir des garanties sportives, lui qui s'est éloigné du haut niveau en jouant en Arabie Saoudite désormais? Sa gestion par le nouveau sélectionneur, Roberto Martinez, occupe les débats au Portugal. Surtout, s'il faut commencer à envisager l'après Ronaldo et peut-être à le mettre sur le banc. Le joueur est accusé de potentiellement devenir un poids pour la sélection. L'accusation est menée par le procureur Christophe Dugarry. Bonsoir, monsieur le procureur.
Bonsoir, jeune homme.
L'avocat de Cristiano Ronaldo, c'est son avocat de toujours, toujours prêt à le défendre. Maître Jérôme Rotten, bonsoir.
On a plein de points communs. Bondi.
Comme quoi?
Le succès, les trophées individuels,
le boula. Le trophée individuel, oui, ouais, bien sûr.
Sûrement. Et une femme sublime.
Sans doute. Le juge qui va nous trancher l'affaire, c'est notre spécialiste du foot portugais, Nicolas Villas. Bonsoir, monsieur le juge.
Hola, viva.
Hola, viva.
Comment il va, lui?
Bonsoir, Nicolas.
Alors, et toi?
Alors.
Il se marre déjà.
Monsieur... Ah ouais. Bah, c'est vrai qu'on t'entend, on se marre.
Ça fait plaisir d'entendre tous ces vieux là qui sont là et tout, ça me fait bizarre.
Ah, il a pas vieilli, Nico. Hein.
Ouais, non, il a jamais vraiment été jeune.
Ouais. La barbe, elle a blanchi.
De fou, gros, comme dirait l'autre.
Nico qui est là pour nous analyser l'affaire, qui n'est pas là pour faire des imitations, son vrai talent.
Dommage. Mais c'est vrai, j'ai un peu raté mon taf.
Alors, monsieur le procureur Dugarry, qu'est-ce que vous reprochez à Cristiano Ronaldo? En quoi ça peut être un poids pour la sélection?
Alors écoute, j'ai pas une place facile en tant qu'accusateur, parce que bien évidemment, j'ai beaucoup d'admiration pour Ronaldo, le joueur qu'il a été, l'envie qu'il met toujours sur le terrain, l'amour qu'il a pour le football. Jouer à son âge, sincèrement, si t'aimes pas le football, c'est juste impossible. Sa capacité, sa faculté à se remettre dans le jeu, en question, jour après jour, travailler, le travail, c'est juste exceptionnel. Cette ballon d'or, enfin 6 ou 7, je sais même plus combien il en a. Tellement il a gagné de choses, ce garçon, et à chaque fois il y retourne. Donc une fois que ça s'est dit, voilà, moi j'ai peur pour Ronaldo. Alors j'ai pas envie de dire que pour l'instant il a raté sa sortie, mais j'ai pas envie, on va pas dire qu'il a réussi, parce que partir en Arabie Saoudite, même si j'aurais certainement fait la même chose, mais c'est pas parce que j'aurais fait la même chose que c'est une bonne décision non plus. Qu'il soit parti en Arabie Saoudite, je peux le comprendre. Quand on te propose autant d'argent à un moment, il y a des choses qui se refusent certainement pas. On a vu à Manchester que c'était compliqué, très compliqué pour lui d'être remplaçant. Alors après, il est rapidement rentré en conflit avec ses dirigeants, avec son entraîneur, a commencé à parler dans la presse, à faire des accusations. Est-ce que ça va pas devenir un poids quand tu fais le choix de te mettre un petit peu en marge du haut niveau? Parce qu'attention, on parle du Portugal, c'est une nation de haut niveau, de très très haut niveau. Donc c'est une nation qui est formatée, même si elle n'en a pas gagné énormément, elle a juste un titre de champion d'Europe, elle est formatée pour gagner des titres. Alors c'est compliqué, il y a toujours qu'une équipe qui gagne, mais c'est le but. Quand tu t'expatries comme ça en Arabie Saoudite, même s'il montre toujours autant d'envie, d'énergie, ce qu'il fait là, dès qu'il rate un but, je le vois, il s'énerve, il tape dans le sol. Enfin bon, on a l'impression qu'il veut marquer toujours autant de buts, et ça c'est très bien, je suis pas surpris d'ailleurs. Après, le niveau international, c'est autre chose. Dans quel état d'esprit il va venir en sélection? Est-ce qu'il va venir en sélection pour passer le flambeau, pour accompagner les jeunes, pour être un cadre, pour accepter par moment d'être remplaçant? Toute la question et toute mon inquiétude, elle est là. Voilà, dans quel état d'esprit il va venir dans cette sélection? Parce que s'il vient dans cette sélection avec toute son ambition légitime, démesurée qu'il a, est-ce qu'il va être suffisamment lucide pour se dire peut-être que sur certains matchs, il faut que je laisse la place, il faut que je sois remplaçant? Est-ce que l'entraîneur va pouvoir lui dire? Est-ce que ses coéquipiers vont pouvoir lui dire aussi ou lui démontrer? C'est pas facile quand t'as un monument comme ça dans le vestiaire, sur le terrain, sur le banc de touche, ce qu'il renvoie aux autres, des fois sans parler, juste avoir son attitude. On le voit à la caméra quand il était renfermé à Manchester, on sentait qu'il bouillonnait, le garçon. Il va pas venir d'Arabie Saoudite pour jouer avec le Portugal, même s'il adore son pays, il est fier de tout ça, tout ce qu'il a réussi, j'ai aucun doute là-dessus. Ça certainement pas pour couper les citrons. Donc je suis assez partagé. Quand tu décides de t'expatrier dans un championnat un peu comme ça exotique, au bout d'un moment, je pense qu'il faut abandonner la sélection avec. C'est pas son cas. On va voir comment ça va se passer.
Maître Rotten, défendez votre client.
Bah, je le défends parce que pour moi, Cristiano Ronaldo, comme certains joueurs qui donnent tout sur le terrain, encore plus lui par rapport à tout ce qu'il a fait dans sa carrière, difficilement critiquable. Difficilement critiquable. Pourquoi je m'explique, c'est que il y a eu une confusion en effet à la Coupe du Monde parce qu'il a été placé dans la peau d'un titulaire. Ça a pas fonctionné. Le Portugal a eu quelques problèmes. Tout de suite, il a été mis au banc, sur le banc. il devait se satisfaire juste de petites rentrées par-ci par-là, et je pense qu'il y a eu un problème dans la gestion de Cristiano Ronaldo, mais ça c'est de la faute du sélectionneur. Qu'est-ce qu'il lui avait dit avant la compétition? Quand il y a un compétiteur, et Duga vient de l'expliquer, comme Cristiano Ronaldo, je pense qu'il faut être très précis dans la com avec lui.
Son rôle, oui.
Là, j'imagine quand même que Martinez, qui a déjà pour lui d'avoir eu une grosse sélection, la Belgique avant, alors avec des résultats mitigés, on est d'accord, mais ouais, qui a géré aussi...
Voire très mauvais,
qui a aussi géré des fortes personnalités. Alors, je dis pas à la hauteur de Cristiano Ronaldo, mais quand même, j'imagine qu'il y a eu plus d'une discussion entre les deux, de voir sa motivation. Il y a juste à regarder les matchs. Alors oui, c'est le niveau de l'Arabie Saoudite. Certains vont dire, oui, bah, qu'est-ce qu'il va faire là-bas et tout. On sait, il y a eu un contrat mirobolant. On sait aussi que en Europe, pour rester tout en haut, bah peut-être que lui aussi a vu qu'il y avait des limites, les limites physiques, ce qu'on veut, et qu'il pouvait peut-être plus apporter autant qu'il apportait avant dans un grand club. Donc il a décidé de s'expatrier et d'avoir un rôle qui dépasse le rôle sportif. Simplement essayer
donc
de...
Donc s'il est bien géré en sélection, il n'y a pas de raison qu'il devienne un problème.
Il n'y a pas de raison. Moi, je vois l'attitude.
Faut définir son rôle,
le rôle qu'il a, mais
déjà son poste, mais, déjà si tu le mets en sélection, tu le mets quel poste déjà?
Mais Duga,
tu es obligé de le mettre en pointe, c'est là.
Non, mais il ne joue plus que déjà là, tu joues comme il joue aujourd'hui en club. Alors même si c'est encore une fois l'Arabie Saoudite, ouais, on le voit les efforts qu'il fait, on voit qu'il peut encore être décisif. Il a marqué une dizaine de buts en 8 matchs. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que le mec, il est là, il joue tous les matchs en Arabie Saoudite. Il n'est pas dans la gestion comme certains qui ont déjà marqué l'histoire du club et qui vont marcher. Lui, il se donne à 100%. Après, avec les limites de quelqu'un qui a 38 ans, il est rattrapé aussi par l'âge. Donc, c'est pour ça que son rôle doit être bien précis en sélection. Mais s'il a encore envie, si le sélectionneur veut se servir de lui par rapport à tout ce que représente Ronaldo au Portugal, et là, je prends sous le contrôle de Nico, bien sûr, bah, écoute, il n'y a pas de raison.
Ça suffit pas tout.
Non, mais ça suffit pas. Mais je pense qu'aujourd'hui, il est plus quand tu fais la carrière qu'il a fait avec autant d'efforts, il est plus intelligent que la moyenne. Il est pas plus con que les autres, Cristiano Ronaldo. Il se rend compte que physiquement,
c'est pas pour ça que t'es lucide en fin de carrière non plus.
Il a le défaut de ses qualités. Il a cette ambition après cette lucidité.
Ouais, mais Duga,
en fin de carrière, est-ce que tu es capable de raccrocher? Il a pas Duga, envie de raccrocher.
Duga, d'accord. Ça aurait été un autre joueur que Cristiano Ronaldo, je te dirais oui. Mais ces joueurs-là qui ont tellement gagné, je pense que ils savent faire leur autocritique. Ils savent au bout d'un moment ce qu'ils peuvent apporter ou ce qu'ils peuvent pas apporter. Moi, quand je vois la composition du Portugal,
si c'est le cas, il y a pas de problème. Je suis d'accord avec toi.
Il dénote pas. Il est dedans. Il est là. Peut-être qu'il sera pas titulaire en effet. Peut-être. Avez vu les adversaires du Portugal là?
Ah oui, on les a dit effectivement. Liechtenstein et Luxembourg. C'est une réflexion plus à moyen terme quand même pour la prochaine.
Moyen terme, c'est que lui pense que à 40 ans, il peut encore faire un euro. Il aura 39 ans et demi. On se tape bien Olivier Giroud. Il y a moins de débat, non? Et c'est Olivier Giroud, attention.
Il y a moins de débat, tu trouves?
C'est pas Ronaldo. Hein.
Oui, bon après, il a 36 ans, Giroud. Mais
Je pensais qu'il avait le même.
Ah, le ressenti est peut-être plus important pour toi avec Giroud. Monsieur le juge, déjà peut-être quelques précisions avant de donner le verdict par rapport à ce que vous avez entendu?
Déjà, comme a dit un grand homme il y a quelques semaines, quelques mois dans Rotten sans flamme, une équipe de football, c'est comme un puzzle. Et Cristiano, c'est la pièce maîtresse du puzzle de Portugal. Non, mais maintenant, blague à part.
C'est ce que je voulais jouer.
Oui, je vais rester sur ça.
C'est parfait.
Bonne soirée, merci à toutes et à tous. On se retrouve au point virgule. Il y a beaucoup de choses que vous avez dites qui sont très intéressantes. Le fait est, et là je rejoins un peu ce que disait Jérôme, aujourd'hui, Ronaldo, il prend la place de personne au sein de l'équipe nationale du Portugal. Mais même dans le 11 de départ, alors si certains vont dire oui, mais maintenant que Jean-Félix va mieux à Chelsea, Rafael Leão, il est moins bien avec Milan pour autant. Et puis quand il a joué en équipe du Portugal, Gonçalo Ramos, pour moi, il est titulaire. Maintenant, la question qui a été posée à Roberto Martinez, c'est...
Il joue à deux.
Voilà. Oui. Est-ce qu'il va faire jouer les deux? Voilà. C'est surtout ça la question. Mais le fait est qu'aujourd'hui, je vous parle vraiment de la liste, même pas du 11 de départ. Ronaldo, aujourd'hui, il prend la place de personne. André Silva, il est pas ultra performant. Il y a beaucoup de joueurs offensifs qui ont un peu disparu de la circulation. Quand Ronaldo est dans les 23, personne ne crie au scandale.
Oui.
Le débat qu'il y a, c'est est-ce qu'il doit être titulaire?
Voilà.
Le fait est qu'aujourd'hui, ou plutôt ce soir, semaine prochaine, et là, je rejoins ce que disait Jérôme, ça joue Liechtenstein et Luxembourg. c'est pas déconnant de voir Ronaldo titulaire face au Liechtenstein et au Luxembourg. En plus, pour la petite histoire, il devient le joueur le plus capé de l'histoire des sélections nationales ce soir face au Liechtenstein.
Justement, excuse-moi Nicolas, mais si tu prépares ces deux matchs-là qui sont a priori très faciles, tu prépares l'avenir. Tu mets des choses en place.
Oui, mais c'est là où ça devient
Ronaldo,
intéressant.
Ronaldo, c'est pas l'avenir aussi.
Et c'est là. Et c'est là. Ronaldo était hier en tant que capitaine en conf de presse également, et Roberto Martinez qui déjà en deux confs nous endort lui aussi, parce que bon politicien qu'il était en Belgique et qui continue de l'être dans un ce qu'on appelle le portugnol, qui est un mélange de portugais et d'espagnol, ce qui fait l'effort d'apprendre le portugais, mais finalement il parle encore l'espagnol, il mélange un peu les deux, mais bravo pour l'effort, hein, cela dit. Mais il t'explique, Ronaldo te dit hier, moi je suis là pour aider. La question lui a été posée d'ailleurs. Je vous rappelle quand même que la fin de Coupe du Monde de Ronaldo, c'est le match contre la Corée du Sud notamment dans le dernier match de poule où il insulte le sélectionneur, il dit non mais je lui parlais pas à lui, et le sélectionneur revoit les images, il dit attendez, si au fait il me parlait à moi, et après il le met sur le banc. Ça se finit hyper mal. Bah, hier il met deux tirs à Fernando Santos, le prédécesseur de Roberto Martinez, en conf de presse. Il règle un petit peu ses comptes, mais il le fait, franchement il le fait subtilement, on va dire. Et derrière il explique, on lui pose la question, est-ce que t'as pensé à arrêter ta carrière après ce qui s'est passé au Mondial? Je vais pas vous mentir, c'est vrai que j'y ai pensé, j'en ai parlé avec ma famille. Et juste là quand même, parenthèse, l'attitude de Ronaldo qui a pas été exemplaire. On est dans une phase où il a vécu les problèmes privés qu'il a eu également. Ça a été un contexte qui a été très compliqué. La fin d'aventure avec United, etc.
C'est pas vécu comme un point, en tout cas. Donc c'est l'histoire de Jérôme, si je comprends bien.
Excusez-moi quand même. Mais les deux,
c'est vrai.
Donc pour l'instant, les deux entraîneurs ou sélectionneurs qui l'ont mis remplaçant, il les a insultés quand même.
Oui, mais est-ce qu'il le mérite pas, du gars,
franchement, que ce soit à Manchester ou au Portugal, il a été remplaçant, deux fois il a insulté.
C'est pas des insultes. Bah, c'est des mots d'amour.
Des ponctuations,
il les méritait.
Évidemment, on ne prône pas l'insulte ni la violence dans Rotten.
Ça peut arriver, hein.
Voilà. Mais ça peut arriver, les insultes, oui, effectivement.
Ça peut arriver. Au contraire. Non, pas du tout.
Merci, Nico.
Pas deux fois, par contre.
Ah oui, c'est ça. Imitations pourries.
Merci Nico, à tout à l'heure, à 20h, dans Génération After. Il y aura d'autres imitations à 20h, on espère. Allez, merci Nico Villas. Dans une seconde, Julien Cazard. Son Cazard enchaîné avec donc une exclue, la conversation entre Griezmann et Mbappé. Restez avec nous tout de suite.
RMC, 18h-20h.
Rotel sans flamme. RMC, pour réagir en direct, 32-16, touche 1.
Touche 1.
Ah, il est bon, Nico.
Bah, il est bon. Bah, on touche pas à Cristiano.
Lui aussi, il fait beaucoup de choses. Attention à pas s'éparpiller.
Nico Villas, ah oui, c'est vrai. Ils sont plusieurs dans sa tête, donc c'est bon. T'inquiète pas. Et oui, t'as fait gagner, Jérôme. Bah oui, mais.
Ah, mais là, il partait sur BFM Business, c'est bizarre. Putain, il en fait des choses.
Ah bon, il a sorti Manu du plateau.
Il y a Manu là-bas. Ouais.
Bon, salut Manu.
Il imite pas Manu.
Non, vaut
mieux. Julien Cazard le fait pas mal, Manu.
C'est vrai?
Ouais.
On va lui demander.
On peut lui demander dans un instant. Manu qui a été très bon sur les deux derniers jours. Vous pouvez podcaster évidemment les Rotten sans flamme qui viennent de.
C'est vrai. C'est tellement rare qu'il faut bien.
Non,
le dire.
Arrête. Manu, il est excellent.
Non, mais je plaisante.
Il est au top.
Une pièce essentielle.
T'as lu ses bios du gars à Manu?
Non, je te cache pas, j'ai pas eu le temps. Non, j'ai pas eu le temps. Ça m'intéresse fortement, j'ai pas eu le temps.
Là, il est sur une nouvelle. Donc.
Ah oui, sûrement. Oui.
Ah, il est à fond.
Ah, il est dans les fruits et légumes aussi, Manu.
En plus, voilà. Fruits et légumes. Bientôt, on va être livré en fruits et légumes.
Pour de vrai.
Ah, ouais. On va t'en envoyer aussi, tu vas voir.
Allez, on l'embrasse, Manu, à tout de suite.
RMC, 18h-20h, Rotten sans flamme.
Jean-Louis Tour, Jérôme Rotten.
18h48 sur RMC, toujours dans Rotten sans flamme, les 10 dernières minutes de la première heure. Et après, on est là, bien sûr, encore jusqu'à 20h, comme tous les soirs, à Christophe Dugarry avec Jean-Louis Tour. Un programme très chargé, mais là, on va se détendre avec Julien Cazard et son Cazard enchaîné. Allez, go!
RMC, Rotten sans flamme.
Le Cazard enchaîné.
Bonsoir à toutes et à tous, et surtout bonsoir Dugas.
Salut, poulet.
Puisque nous sommes le jeudi 24 mars. Et je tiens à profiter de ce jour pour.
23 mars.
Ah merde, c'est demain! Ah, je le savais. Putain, je me suis planté. Je sais. En fait, c'est parce que je savais que t'étais pas là demain. Donc, je te souhaite à l'avance un joyeux anniversaire.
Ah non, tu peux pas faire ça avant.
On me bat les couilles, gros, tu sais pas qui je suis. Aujourd'hui, je considère que t'as 51 ans.
On fait pas ça avant.
Si, pour moi, il a 51 ans, lui.
Arrête.
51, je t'aime, Olivier Giroud.
Je sais, c'est 51, demain. 51. Je voulais, parce que demain, il n'est pas là. Donc, je sais qu'il n'est pas là, donc je voulais quand même lui souhaiter. Alors, tu sais, il y a deux ans, c'est bon la musique, on a compris. 51. C'est vrai que 51, c'est profite. Hein. Demain, tu vas prendre un gros coup de vieux, même si bon. Tu sais, je sais qu'il y a deux ans, quand t'as décidé de quitter en pleine gloire Team Dugas, c'était pas sur un coup de tête comme ton copain, là, le chauve. Si t'es parti au top de ta forme, te dorer la rondelle sur les fairways à Ouarzazate, c'est pour une raison bien précise. Et je le sais. Je sais que tu sais que je sais. C'est que tu voyais avec angoisse arriver le moment fatidique de tes 50 ans à l'antenne. Et tu t'es dit déjà, à 50 ans, pour un homme normal, déjà, c'est compliqué. N'est-ce pas, Jean-Louis? Toi, tu les as passés capillairement, toi. C'est que limite, capillairement, t'as été à la soixantaine. Donc, pour un homme normal, déjà, c'est compliqué. Mais pour celui qu'on voit comme toi, du gars, comme un éternel ado entre Johnny Depp et Étienne Dao, c'est pas évident à assumer. C'est pas évident. Et le truc qui te faisait le plus flipper, c'est d'imaginer de fêter ça en direct sur RMC. Tu vois ce genre de truc, là, avec tous les moldus qui chantent Happy Birthday, comme au Club Dorothée. Jean-Louis, avec sa tête de satisfait. Oui. Et puis surtout Antoine Varnier en coulisses. Tu le connais, Antoine. Ouais. Et Luis Campos, t'as couru. Eh, les gars, j'ai une super idée. On va prendre un gâteau avec la tête de Didier Deschamps, puis on va demander à Dugas de cracher sur les bougies. Puis il coupera le gâteau avec son propre couteau, on dira ah, il a mis un coup de couteau à Dédé.
Oui, il rigole comme ça, oui. Bah, il vient de Soissons, hein. Yvan Soisson, ils rigolent tous comme ça. Ouais. Alors tu sais que j'ai raison, Dugas, tu sais que ça te faisait flipper, je te comprends, il n'y a rien de plus angoissant que les anniversaires à l'antenne. J'ai dit, c'est aussi horrible. Festival de faux culs qui t'applaudissent, alors que la plupart, bon,
ils veulent. Quand le tien.
Il est déjà passé. Oui, la plupart peuvent pas t'encadrer et les autres sont jaloux de ton salaire à 8 chiffres. On le sait. Donc j'ai connu ça à Canal. Donc voilà, je sais que t'as vérifié que ça tombait un jeudi l'autre fois aussi. Alors ce qui est con, c'est qu'à un jour près, l'année où tu devais continuer, t'aurais été dans Rotten Régal. Là, t'es sûr qu'il n'y avait pas ton anniversaire ni de gâteau parce que l'autre il s'en fout, il voulait juste prendre ta place en mode Olivier Guégan. Donc et ça a bien marché d'ailleurs.
Ah non, tout le 5 ça pour novembre, dire. C'est un dimanche, je suis dégoûté.
Mais je vais me bats les steaks, gros. De toute façon, tu me fais pas le cadeau. Moi, je viens pas. Je me fais porter pâle. Enfin, tout ça pour dire joyeux anniversaire du gars. Et merci parce que voilà. Non, pas le Claude Do, là. T'as Varnier, arrête. Tu nous saoules. Varnier! Allez, sommaire. Craque complètement, putain. Dans cette édition, nous aborderons le thème qui va suivre dans Rotten sans flamme à 19h. Oui. Un but raté en finale peut-il ruiner une carrière comme Colomoigny ou Dédé Gignac? C'est un sujet intéressant. Et ouais. Qui de mieux pour en parler que celui qui a porté l'équipe de France au firmament du football mondial? Je veux bien sûr parler du meilleur ami de Dugas, Raymond Domenech.
Ceci est une analyse de Raymond Domenech.
Alors, est-ce qu'on peut se remettre d'une reprise de volée ratée seule face au gardien en finale de Coupe du Monde? Ah, vous voulez parler de Dugarry avec sa reprise dégueulasse en finale de Coupe du Monde contre le Brésil, seul face à Taffarel à la 83e, là, sa demi-volée qui finit à 15 mètres du but? Ah oui, visiblement, on peut s'en remettre. Surtout si les copains, ils ont fait le boulot avant. Parce que sans le doublé de son pote Zizou, sa reprise d'handicap et anémique, elle nous aurait fait mal au fion. On aurait fouetté jusqu'à la fin des prolongations. Ah, je peux vous dire qu'il aurait moins tiré la langue, le cantonade opérette. Bon, faut que je vous laisse, là. Il y a Estelle Midi qui commence avec Fred Hermel et Perico Légas qui ont prévu deux débats. L'Ukraine doit-elle accepter les missiles d'uranium appauvri livrés par l'Angleterre? Y a-t-il trop de topping caramel dans les cupcakes?
Ceci était une analyse de Raymond Domenech.
La dernière fois que Dugas il a discuté avec Raymond Domenech, il s'est fait bouger, Dugas.
Ah ouais. Canard, coin-coin, c'était coin-coin, on le connaît, on les connaît, ces mecs-là. C'est vrai que c'était quand même un beau souvenir, cette demi-volée, non, Dugas? Souvenez-vous.
C'était exceptionnel, ouais.
Ouais. Merci. Ah non, c'est pas là, c'est pas ça. Allô?
Oui.
Allô, la Terre? Oui. C'est pas ça.
Dugas, Zidane. Allez,
Dugas.
Aïe, je
vais
casser le téléviseur. Oh là là, ça fait trois fois.
Ah oui, en plus. C'était à la 83e, je peux te jurer qu'heureusement qu'on venait 2-0. Hein. Bref, l'info du jour, c'est pas ça.
Il savait mettre en valeur Thierry Roland Jean-Michel Larquet.
Ouais. Oh non, je vais casser mon téléviseur. L'info du jour, sachant que le mec est au stade. Bref, l'info du jour, c'est l'explication entre Mbappé et Griezmann. En effet, le néo-capitaine des Bleus est allé parler à Grisou. Et oui, on le sait. Ouais. Et oui, et nous avons le document sonore. Ah. C'est parti.
Mais il est où notre débile? Grisou!
Salut Kiki! Je sais plus, tu préfères Kix ou Kiki?
Appelle-moi Captain, ce sera très bien.
Ouais, comme dans Capitaine Flamme! Capitaine!
Oui, c'est ça. Dis donc, je voulais te parler d'un truc important là.
Ah ouais? Justement, parce que je pensais à un truc.
Ah, parce que tu penses toi?
Bah ouais, ça m'arrive plein de fois.
Ah oui? Et quand tu vas chez le coiffeur pour te faire une teinture de blaireau qu'on dirait qu'une licorne t'a chié dessus, tu penses à quoi en fait?
Licorne? Il est fou! J'aime bien. Puis attends, cette teinture, tu la connais? Tu l'as déjà eu toi à Paris?
Oui, ma femme, mec, moi j'avais 18 ans, puis j'étais un gosse, je voulais déconner, puis j'avais perdu un pari surtout.
Ah, mais moi aussi, c'est un pari avec Dembouze!
Hein? T'as perdu un pari contre Dembouze?
Ah non, je l'ai gagné!
Ah ouais, ok. Bref, c'est pas ça. Et donc, je voulais te parler, mais en fait, je voulais te parler de ce qu'a dit Dédé.
Ah quoi? Le coach, il a dit un truc en conf, là?
Mais non, s'il disait un truc en conf, ça se saurait.
Je ne
rien comprendre. Oui, je viens de la dire. Donc t'as vu, il a dit que bon, finalement, pour le brassard, hein, voilà, tu vas plus avoir le brassard.
Oh mais c'est pas grave, parce que moi je sais nager, j'ai pas besoin.
Non, le brassard de capitaine de l'équipe de France.
Non, c'est pas vrai.
Ben si, c'est vrai, il te l'a pas dit?
Bah non, enfin il m'a envoyé un SMS à 4h du matin, mais j'ai vu en me réveillant, mais je croyais que c'était une blague. Alors je l'ai appelé, oh, manque de peau, il passait sous un tunnel.
Sous un tunnel, ah oui. Il t'a appelé sur quel téléphone?
Bah il m'a appelé du fixe de la Fédé.
Ah oui.
Bah avant de raccrocher, il m'a dit voix avec Kylian, donc
Ah ben, tu penses. Bon mais écoute, on va pas se mentir, vu que t'as pas trop l'âme d'un leader, hein, enfin en termes de leader, t'es comme Sammy dans Scooby-Doo, donc finalement ça sera pas toi le capitaine.
Moi je suis pas un leader.
Ah bah non, au mieux t'es un leader Price, mais pour guider les bleus, faut un gars sérieux, tu vois, charismatique.
Et j'ai pas l'air sérieux?
Si si, avec cette tête t'es très sérieux, tu peux être leader hein, sur un char de la Gay Pride ou Égérie chez Haribo, mais capitaine des bleus non.
C'est qui alors?
Ben on a longtemps débattu.
Avec Dédé?
Ben non, avec moi. Ben donc j'ai longtemps débattu et j'ai décidé d'un commun accord que ça serait moi le capitaine.
Ah bon? Bon, bah d'accord.
Puis c'est moi qui tiens les pénaux aussi.
Ah.
Puis les coups francs. Et puis les corners. Puis je vais faire les touches aussi. Puis les dégagements de gardien.
Ah, ok. Et moi, je fais quoi?
Je te dirai ça pendant ma causerie d'avant-match.
Ah, ok, super.
Allez, va t'entraîner. Et vous aviez pas un tennis-ballon ce matin?
Ah si, mais j'ai pas trouvé de raquette assez grosse.
Oh putain, il est pire que Neymar.
Eh ben, tu sais quoi, je suis rassuré. Je vois que ça va bien se passer. Je pense qu'ils vont passer des... J'ai hâte de ton match.
C'est juste quand même, hein. J'ai l'impression que Neymar est plus intelligent.
Ah oui.
C'est pas possible.
Pas beau.
Neymar, il est plus intelligent que Griezmann, ça la gâche que toi, Jean-Louis. Franchement, je retiens, je vais couper cette séquence non. Et je vais la mettre sur les réseaux. Avec toute la bienveillance qui va avec. Allez, à tout à l'heure.
RMC, le Casar enchaîné.
Réécoutez Julien Casar en podcast sur rmc.fr et l'appli RMC.
Julien qui sera de retour tout à l'heure pour le quiz à 19h45. Ce sera Jérôme contre le reste du monde. Reste du monde composé de Christophe Dugarry et Pascal Olmeta qui ne rate pas une occasion de venir te faire perdre. Donc il sera là tout à l'heure.
Ah,
Pascal.
Ah bon,
bah, c'est le meilleur joueur à la race. Hein. On a fait les stats là individuellement. C'est lui qui a mis le plus de bonnes réponses.
Incroyable.
Donc il sera là tout à l'heure, 19h45. Je vous rappelle qu'on a toujours des places pour France-Pays-Bas à vous offrir. Vous envoyez euro par SMS au 732-16. Et dans une seconde, Colomouani, Gignac, Dugarry. Une action ratée peut-elle hanter une carrière? 32-16 pour discuter de ça tout de suite.
RMC jusqu'à 20h.
Rotten sans flamme.
RMC 18h-20h. Rotten sans flamme.
Jean-Louis Tour, Jérôme Rotten.
19h05 sur RMC, la deuxième heure de Rotten sans flamme du soir. Et Christophe Dugarry avec Jean-Louis Tour. Oui, on a passé une belle première heure. Elle est déjà disponible en podcast. On vous le dit tous les jours. Hein. Si vous ne l'avez pas écouté, c'est pas bien. Mais allez-y, téléchargez, abonnez-vous à la chaîne Rotten sans flamme. Voilà, c'est important. On marche bien en podcast. Et c'est pratique. Voilà, vous refaites tous les débats, les faites entrer l'accusé, les bons thèmes, la une de Rotten sans flamme aujourd'hui, c'était sur Kylian Mbappé. Magnifique, allez-y. On compte sur vous et surtout on compte sur vous pour écouter cette deuxième heure en direct parce que ça va être du lourd.
En plus en podcast vous pouvez accélérer quand c'est quelqu'un que vous n'aimez pas qui parle. Ça, c'est pratique.
Bah, là c'est mal barré parce qu'on est que deux aujourd'hui.
Ah bah.
Ouais,
ça peut donc, être, ouais. Les deux.
Ouais, exactement.
Alors, dans cette deuxième heure, verra-t-on un jour le Messi de l'Argentine avec le maillot du PSG? 32-16, hein, pour donner votre avis sur le ring des supporters. Bah, on ne sait jamais, Jérôme, on peut y croire. Ouais. On vous racontera comment il montre sa joie de vivre en permanence depuis qu'il est de retour en Argentine.
Ouais, dégueulé.
Pour la trêve internationale. Pourtant, t'as un pull avec écrit Messi dessus.
Bah, oui, c'est pour ça que j'ai... reste bien en Argentine.
Alors, on sera sur place avec Georges Quirino, notre correspondant en Argentine, pour nous raconter tout ça. Ah, tu sais que dans quelques heures, c'est les grandes festivités en Argentine pour célébrer le titre. Ça va reprendre à l'occasion d'un match
magnifique.
Amical. À 19h45, le quiz avec donc face à toi Christophe Dugarry et Pascal Olmeta qui sera là, puisqu'il adore te faire perdre, Pascal. Il y a un bon d'achat de 1 000 € dans les showrooms.p à gagner. Donc, pour vous inscrire, vous envoyez top par SMS au 732-16. Et puis, je vous rappelle que le tirage au sort n'a pas eu lieu encore. Vous avez toujours l'occasion de gagner 2 places pour France-Pays-Bas.
Magnifique, allez-y.
Demain soir, au Stade de France, vous envoyez le mot euro au 732-16 pour peut-être être tiré au sort. Tout de suite, c'est terrible quand ça se joue vraiment.
Ah ouais.
Nous allons vous parler aujourd'hui de rêves et de cauchemars.
Colomb dégagé, Konaté devant.
Oui, Colomouani, oui, Colomouani, oui, Colomouani, Colomouani, oui, c'est fini, Darío Martínez.
Oh là 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 là, quelle action.
Qu'il soit doux, terrifiant ou insensé.
Don Gignac à la lutte avec Pépé, il essaie de retourner, il a fait la différence. Le poteau, le poteau,
oh
le poteau, le poteau, et merde.
Peuple notre sommeil et nous déroute chaque matin. Certains s'en souviennent, d'autres jamais.
Dugarry, Zidane, allez, 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 allez.
Un lob. Oh, oh non. Aïe, 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 aïe,
ça fait trois fois. Ce rêve
bleu. Oui, Jean-Michel, il avait vu au commentaire qu'il fallait faire un lob. Je sais pas s'il y avait la plaque.
Il était déjà carbo, le vieux.
Ah. En 98. Alors là.
C'était carbo, les deux.
Donc, il sera là demain, Jean-Michel.
Oui, oui.
Il n'était pas là de la semaine. Bah oui, il était.
Ah ben bah si, si, ah, il est encore là. Oui, oui.
Bah, il a fait comme toi, il a pris sa retraite, il est revenu.
C'est fou. C'est
oui. Fou, il a passé la semaine avec le pape, hein, au Vatican, Jean-Michel. On raconte pas ça. Ah ouais.
Bah, d'habitude, il y est toujours avec le pape. Il y est toutes les semaines, non ?
Non, non, non.
Il a eu besoin d'aller se confesser, je peux te garantir.
Ah, tu crois qu'il a des choses à se reprocher, peut-être ?
Ouais, ah, je crois qu'il était avec le pape du foot toutes les semaines. Bah, avec moi. Bah, je comprends pas.
Ouais, moi non plus.
Franchement, il parle avec moi tous les deux jours.
Bah, oui, c'est vrai. Ouais. Alors, demain, messieurs, Randal Kolo Muani va reporter le maillot bleu, peut-être dès le coup d'envoi du match. Hein. On attend les infos compos qui pourraient se confirmer dans les heures qui viennent. Quelques semaines après cette fameuse balle de match, on a entendu de nouveau le commentaire de Jeannot Rességuier sur RMC en ce soir de décembre. Il avait dans les pieds la finale de la Coupe du Monde, l'arrêt de Martinez. Et il en a parlé hier dans l'équipe, dans une grande interview. Ma vie aurait pu changer, a-t-il dit. Je ne vais pas mentir, j'ai la haine sur cette action, mais il dit aussi, je ne veux pas que cette action soit un poids. Elle me donne envie de travailler devant le but, de revoir cette action, ça aide à progresser, à avancer, et il confie qu'il a envie de passer à autre chose. Ce qu'André Pierre Gignac a eu du mal à faire, lui qui a connu une action similaire en finale de l'Euro 2016, on a entendu l'extrait également. Duga, toi, tu nous avais parlé donc de cette action en finale. Alors, évidemment, on met pas tout ça sur le même plan, hein.
Non.
Parce que pour le coup, toi, vous avez été champion du monde quand même, hein. Le dénouement a été heureux. Alors que eux, bah, c'était synonyme derrière de finale perdue. Mais voilà, on voulait se servir de ces exemples et de vos carrières à tous les deux pour se poser cette question. Est-ce qu'une action ratée, ça peut hanter toute une carrière? 32-16, appelez-nous pour en débattre.
Ouais, mais moi, je vais même l'élargir à un match. Un match qui peut où t'es passé à côté et que ça peut donner.
C'est la finale de Ligue des Champions.
Entre autres, oui, parce que ma carrière aurait été peut-être différente, ça c'est clair. Là, on parle d'un geste, alors Duga est bien placé pour le savoir, mais bon, c'est différent parce que, et tu l'as bien dit, Jean-Louis, vous, Duga, vous l'avez gagné, la Coupe du Monde, il y avait quoi, 2-0 à cette époque-là,
ouais,
donc,
ouais, tout à fait, ouais.
Donc le score était quasiment fait. Ce qui est complètement différent d'André Pierre Gignac et Kolo Muani. La grande différence aussi entre les deux, c'est que t'en as un qui était en fin de cycle en équipe de France et l'autre qui débute, c'est ça. Première sélection, on va pas lui tomber dessus. En plus, il y a geste raté. Pour moi, c'est un arrêt remarquable du gardien. C'est pas un geste raté. Alors oui, il peut mieux faire. C'était marquer un but. C'était de faire un lob ou frapper différemment, mais pas faire la passe, ça c'est sûr pour Kolo Muani. Mais
lui dit quand même qu'il y avait cette option.
Non, la passe, la
et
passe.
Il dit quand je revois l'action, je me dis qu'il y a d'autres possibilités quand non, même. Et il m'a manqué cette demi seconde de lucidité.
Jean-Michel Larquet le dit au commentaire ou Thierry Roland, je sais plus sur du. Gars, lob. Ouais. Oui, la seule possibilité qu'il avait, c'était de lober. Comme ça, ou lober Kolo Muani. Après, lober, c'est la classe des très grands. Je pense des joueurs un peu plus expérimentés.
Là, il faut un sacré sang-froid à ce moment-là.
Qui prennent le temps. Non, mais la différence, et je pense que Duga va être d'accord avec moi, j'ai eu la chance de jouer avec des grands attaquants, vraiment, comme Duga. Hein, et à l'arrivée, je pars du principe que les grands attaquants m'ont toujours dit, ils sont unanimes, ils sont tous pareils, dire il faut aller vite devant le but, sur le dernier geste, mais il faut aussi. C'est paradoxal ce que je vais dire, mais prendre le temps. Alors il faut enchaîner vite, il faut voir plus vite, mais prendre le temps parce que t'as toujours un temps d'avance que sur le dernier geste. Et ce temps-là, alors qui est plus ou moins rapide, te permet de faire le bon geste, la bonne analyse de la situation.
Qui faisait le mieux ça un peu, Jérôme, pour rebondir sur ce que tu dis, c'était Thierry Henry,
oui.
Qui allait très très vite, mais par contre, quand il était devant le but, il arrivait à, tu vois, comme si que le souffle retombait, tu sais.
C'est vrai.
Là, t'as ton sang-froid, t'as un peu, tu sais, comme on disait avec Youri Djorkaeff, on l'appelait le snake, c'était le serpent parce qu'il avait le sang-froid. Tu as gardé
c'est dingue.
Cette sérénité, ce sang-froid devant le but.
Il n'y a pas d'excitation.
Et surtout pas parce que c'est les gestes techniques, on sait tous les faire. Quand tu es footballeur professionnel, Bon voilà, tu sais faire le geste qu'il faut, mais c'est la lucidité qui va te permettre de faire ce geste, et elle n'est pas toujours présente.
Mais c'est vrai, et tu fais bien de rebondir et de parler de Thierry Henry, parce que c'est Thierry, déjà, moi qui m'en a beaucoup parlé, Marco Simone m'en avait parlé aussi à Monaco, et Marco était très habile, vraiment dans le...
Paoletta était comme ça.
Pedro aussi, avec qui j'ai joué, bah toi aussi, t'as joué à Bordeaux avec lui, mais avec qui j'ai joué longtemps à Paris, avait cette faculté-là, et c'est la classe des très grands, et encore une fois...
Du coup, c'est ce qu'il dit, ça peut plus aider à progresser, cette action. Pour
dans
lui, pour
dans l'exemple de Colomouani, oui. Pour les autres, non. Pour Gignac, non. Parce que Gignac, c'était le départ au Mexique et il a fait une croix sur la sélection, même s'il est revenu pour les JO. Ouais. Mais c'était un choix de carrière aussi. Et que lui, c'était peut-être sa dernière occasion. C'était sa dernière occasion de gagner un trophée.
Colomouani, il peut effacer ça, en fait. Même si ce sera difficile d'avoir une telle balle de match dans une autre finale de Coupe du Monde.
Ça dépend comment tu le vis. C'est plus personnel, moi, je trouve que. Ouais. Les gens alors moi le joueur où on en a voulu qui avait raté et ça nous a fait éliminer, je me rappelle c'était Reynald Pedrosa à l'Euro 96,
il y a le penalty
contre la République tchèque.
Voilà, et là je trouve que les Français lui en avaient voulu un petit peu, et surtout le sélectionneur, après je crois qu'il avait plus été pratiquement plus sélectionné. Ouais. Donc ça lui avait coûté cher dans sa carrière internationale. Après, sincèrement, moi, ça n'a pas eu de répercussions au niveau de ma sélection, parce que comme tu l'as dit, on a été champion du monde. Colomani, il va falloir qu'il réagisse. C'est personnel. Moi, quand je rêve au football, parce que ça m'arrive, ça arrive à Jérôme et à tous les anciens footballeurs certainement, je rêve pas de ce but raté. Moi, je fais tout de mal sur cette action. Hormis le 1-2, que je sollicite avec Zizou, qui est bien fait depuis le début. Après, je maîtrise rien. Voilà, j'arrive devant le gardien, il sort à moitié, il s'arrête au milieu, il vient à ma rencontre, mais il s'arrête. Donc j'hésite à le lober. Après, je veux croiser, je croise très très mal. Bon, en plus je suis
blessé. En plus,
j'ai ma déchirure, donc ça n'arrange rien. J'ai pas cette sérénité, cette tranquillité, ce sang-froid que l'on doit avoir dans le but. Je fais tout mal. Voilà, et c'est pas plus compliqué que ça. Voilà, tout est raté sur cette action. Mais c'est vrai que. Ça change ta carrière, Colomani, Gignac, ou moi, si on marque ces buts-là, ça change notre carrière. Même si moi, ça n'aurait pas été un but décisif, ça change quand même ma carrière. J'ai marqué le premier but de la Coupe du Monde, j'aurais marqué le dernier, dans ta confiance, dans ta représentation, dans ce que tu as... Pour toi, ça te donne une confiance énorme. Donc,
t'es décisif sur une finale d'une grande compétition.
T'aurais été Manu Petit. Si t'avais marqué.
J'aurais été Manu Petit, effectivement.
Tu vois, dans le cœur des Français et tout.
Bien sûr. Non, mais c'est marqué. C'est une marque indélébile qui compte pour toi, pour ta carrière, pour tes enfants, quand tu vas revoir des images, des photos, un tas de choses comme ça. Après.
Sur les champs, c'était toi, c'était pas Zizou. Hein.
Exactement.
Bah oui.
C'est sûr. Non, je suis d'accord.
Mais tu
après,
vois.
Ça fait partie aussi.
Ton histoire.
Non, de la carrière.
Et de la panoplie aussi que doit avoir le sportif. De haut niveau, moi, mentalement,
je suis assez d'accord avec toi parce que on te forme comme ça et c'est pour ça que il y a un gros tri qui est fait au moment de passer du foot amateur au football professionnel, tu vois, et puis après au niveau du football professionnel de passer au plus haut niveau dans les clubs et puis après au niveau international. Donc
c'est ce qui fait la légende aussi, Jérôme. Parce qu'il y a des buts importants et il y a des buts très importants. Ouais. Si tu veux rentrer dans une forme de légende ou d'histoire ou quoi, il faut marquer les buts très importants. Après, tu peux avoir été un très très bon joueur. Et si tu veux rentrer dans la légende, il faut marquer des buts dont tout le monde se souvient, dans des événements qui comptent. Ça change une carrière. Je pense que ça change une carrière. À mon avis, ça la défait pas, parce que si de rater un but, aussi important soit-il, ça te détruit ta carrière, c'est que t'avais rien à faire à ce niveau-là et que faut pas être footballeur. Mais par contre, ça peut t'améliorer les choses, ça peut te donner beaucoup de confiance. C'est quand même un moment important, je trouve, dans une carrière. T'as la chance de jouer ces matchs-là. T'as la chance de te créer cette situation-là, cette occasion-là. Tu la mets pas, mais du coup, tu peux t'en prendre qu'à toi. Mais j'y pense pas tous les jours, c'est pas le cas. Mais ça me manque. Je l'aurais marqué. Je peux te garantir que je n'aurais pas été pareil.
Surtout que c'est des moments rares. Tu vois, Jean-Louis, moi, tu me parlais de ma finale de Ligue des Champions. Malheureusement, c'est jamais revenu. J'en ai jamais refait des finales de Ligue des Champions. Et pourtant, j'avais 25 ans. Donc, tu te dis, je peux encore en faire. Et certains de l'AS Monaco de cette époque-là, on en refait et l'ont gagné la Ligue des Champions. Je pense à Pat Evra ou à Ludo Juli, entre autres.
Mais peut-être les bons choix de carrière.
Non, mais peu importe. C'est même pas un bon choix de carrière. derrière, c'est que, non, c'est que automatiquement tu y repenses à ces gestes-là ou à ces matchs-là parce que c'était tellement des moments à part. Vivre une finale de Coupe du Monde, ben je le souhaite à Colomouani, hein. Mais je suis pas sûr qu'il en refasse une. Je suis pas sûr qu'il soit titulaire. Si jamais l'équipe de France en refait une, il va falloir les enchaîner, sachant que dans l'histoire, on en a pas fait beaucoup. On en a fait quatre, hein, c'est ça. Si je
quatre,
compte bien.
Quatre
finales de Coupe du Monde.
Ouais, ouais, 98, 2006, 2018 et donc.
Et ben voilà, ouais, donc ouais. Quatre finales sur l'histoire, bah, c'est pas beaucoup. Donc, soit c'est tellement des événements rares que, bah, comme tu l'as dit, Duga, il faut marquer l'histoire quand elle vient. Et forcément, quand t'as pas la chance de revivre ça après, parce que bah regarde en Gignac, il a pas refait de sélection, il a pas refait de finale d'Euro, et forcément c'est un traumatisme pour lui. Mmh. Tu as un poteau.
Alors voyons ce qu'en pense Loïc qui nous rejoint sur RMC dans Rotten sans flamme au 32-16.
Salut Loïc.
Salut messieurs.
Bienvenue.
Bonsoir Loïc.
Bonsoir.
Merci.
Bon.
Welcome du gars. Bon retour.
Merci mon poulet, c'est gentil.
Je t'en prie. Bon, on est à peu près de la même région. Je suis d'Agen, t'es de Bordeaux.
Ah oui, je reconnais les pruneaux. Ouais.
Voilà, exactement. Nos gamins ont le même prénom, donc tu vois, on est assez semblables.
Bah, et bienvenue. Bon. Écoute, bon. Qu'est-ce que t'en penses, toi, alors, de ces occasions ratées dans la carrière d'un joueur?
Je pense que si mentalement, comme vous disiez tout à l'heure, si le mec, il n'est pas épais, s'il n'est pas entouré, qu'il n'a pas un gros mental, ça peut le faire exploser.
L'entourage, c'est vrai qu'on n'y a pas pensé, t'as raison de parler aussi de l'entourage.
Je pense que la bienveillance de la famille, des proches, tout ça, c'est un paramètre hyper important. Mmh. Je pense aussi que les jeunes d'aujourd'hui, parce que voilà, un peu plus âgés qu'eux, ont une facilité à switcher plus vite d'un événement à l'autre que possible. Ça a pu être par le passé. Mmh. Malgré le fait des réseaux sociaux et l'insistance, la répétition, tu sais, de toutes ces vidéos qui tournent en boucle avec les youtubeurs, les influenceurs. Donc je pense que le mec, il peut très vite être monté au nu. Et par tous ces réseaux-là, être descendu s'il n'est pas mentalement costaud. Après, on peut se rappeler de Roberto Baggio en 94,
oui,
qui porte l'Italie jusqu'en finale et qui, malheureusement, met une agate au-dessus de la barre, quoi, sur la finale.
C'est vrai que tu as l'impression que cette nouvelle génération, elle est assez imperméable. Alors, entre imperméable et je m'en foutiste, des fois, il n'y a pas une marge assez énorme parce qu'il y en a, ils n'ont rien à carrer.
La limite est très fine. Hein.
Ouais, moi, ça m'a rappelé en fin de carrière, tu vois, quand on perdait les matchs d'entraînement. Putain, je voyais les mecs, ils n'en avaient rien à taper. Ouais. J'ai souvenir quand même, Jérôme, quand on perdait un match à l'entraînement, mais tu te faisais chambrer, sous la douche, déjeuner. Ouais. Enfin, voilà, je voyais les mecs, ils n'en avaient rien à foutre. C'était un truc. Et c'est là que j'ai commencé à voir le décalage que j'avais par rapport aux autres.
À cette génération-là, ouais.
Ah ouais, ouais.
Mais en fait, le fait qu'il switch Loïc plus facilement, c'est déjà parce que le foot il a évolué, le foot est encore plus médiatisé. Regarde, je te prends l'exemple de Colomouani, tu te rends compte en effet qu'en club il a switché assez vite parce qu'il est très performant depuis la Coupe du Monde. Franchement, il est irréprochable, il est contacté par les meilleurs clubs en Europe et il va certainement être transféré au mois de juin. Donc il a switché plus facilement, mais où c'est plus, je te dis pas que c'est plus simple pour eux, c'est que le foot est tellement médiatisé qu'aujourd'hui, ce qu'il fait en Allemagne, ça aurait été il y a 15 ans en arrière. Franchement, ici en France, on en parlerait à peine. Tu vois. Alors que là, on est au courant. Tout ce qu'il fait, tout ce qu'il fait de bien, tout ce qui est ceci. Et je pense que ça va l'aider. Ouais. En plus, regarde, la preuve, c'est qu'il va être certainement titulaire demain.
Ça tombe bien parce que Fabrice Hawkins vient de nous envoyer la compo pour demain, ce qui a été travaillé. Donc, Colomouani devrait débuter devant, à la place donc de Giroud par rapport à la Coupe du Monde. Mbappé sur sa gauche, Coman sur sa droite puisque Dembélé est blessé. Et pour le reste, on retrouve les trois milieux de la Coupe du Monde. Griezmann, Tchouaméni, Rabiot. Et derrière, donc Koundé, arrière droit comme à la Coupe du Monde, Hernandez à gauche et Konaté ou Upamecano en défense centrale.
Pas de surprise.
Avec Mignon, pas de surprise.
Elle est pas mal. C'était moi, hormis Koundé arrière droit, moi que je n'aime pas.
Oui, c'est
du
vrai,
tout.
C'est vrai.
Moi, je trouve que c'est un très bon joueur, mais arrière droit, je trouve que c'est un non-sens absolu. Je trouve qu'elle a quand même de la gueule, cette équipe.
Elle est ambitieuse. Offensivement, je trouve qu'il y a beaucoup de joueurs offensifs, en effet. Si tu mets Griezmann dans les joueurs qui peuvent se libérer, ça fait quand même 4 joueurs offensifs. Ouais, elle a de la gueule. après, c'est juste toujours pareil, du gars. C'est une question d'animation. Comment tu vas animer ça? Comment tu vas te servir de Kolo Muani par rapport à Giroud? Comment Mbappé va évoluer? Est-ce que sur le front de l'attaque ou vraiment côté gauche, cette liberté-là, les latéraux, est-ce qu'ils vont apporter un plus? Parce que
Jean-Louis Mbappé, on peut l'appeler toujours Kylian Mbappé ou faut l'appeler Captain Mbappé?
Ah, tu peux l'appeler Capi, je pense même. Capi, il aimera bien. Ouais.
Bah, je pense que par rapport à ce que nous a dit Julien Cazard, je pense que même Griezmann l'appelle Cap maintenant.
Bon, en tout cas, c'est vrai que là, Kolo Muani titulaire, ça tourne la page Olivier Giroud quand même. C'est le premier gros match juste après la Coupe du Monde.
Non, mais heureusement. Arrêtez le délire.
C'était pas gagné, Jérôme.
Non, mais moi, j'ai l'impression.
C'est genre, oui, quel footeur de merde.
Du gars, je vais te dire. Non, mais il rigole. En plus, il a un smiley, tu verrais.
C'est pas du
il
tout,
est content,
mais je trouve que
il est content de sa réflexion parce que je suis parti au quart de tour.
Mais pas du tout, c'est l'enseignement principal par rapport à la finale de la Coupe du Monde.
Il y a un enseignement où nous, ben, on n'a pas eu d'explication du sélectionneur pour le pourquoi du comment. On a pris le bouillon contre
80 minutes.
Contre l'Angleterre, contre le Maroc, on n'a pas eu la possession de balle. Contre l'Argentine, il a changé au bout de 40 minutes et Giroud est sorti. Donc c'est bien que lui aussi, Giroud, même s'il a marqué des buts, et moi je le félicite parce qu'il a été performant quand même dans ce qu'on lui demande. Mais après, quand l'équipe de France doit mettre un jeu en place, doit essayer de dominer, doit être sûr de se rassurer sur certains points, oui, bien sûr que Giroud, c'est un problème. Et là, Didier Deschamps l'a montré et le montre aujourd'hui que le choix, c'est Kolo Muani en numéro 1. Bah, tant mieux.
Ah, je suis pas d'accord avec toi, Jérôme.
Non, mais peut-être. Vas-y.
Non, mais je pense que Giroud, c'est plus un problème. 51 buts ou 52 buts, c'est plus 53. Un problème. On peut, 53, pardon, mais tu vois. On peut ne pas apprécier sa façon de jouer, ses qualités de footballeur, mais ça n'est plus un problème. Aujourd'hui, voilà, c'est en équipe de France, dans les 23, la question ne doit plus se poser.
Non, mais je te parle pas dans les 23, moi, du gars. Je te parle sur le terrain d'entrée.
Ah oui, d'entrée, bah oui, là tu prépares l'avenir quand voilà. T'as des jeunes qui sont performants, oui, c'est une suite logique, mais Giroud t'apportera encore et toujours quelque chose. C'est un garçon qu'il faut garder dans les 23. L'état d'esprit est remarquable. Voilà, sur un style de match, il méritera de jouer et je suis persuadé qu'il sera encore performant et buteur.
On lui souhaite
là-dessus. On en reparlera demain dans un Rotten sans flamme spécial France-Pays-Bas avec le détail de la compo et on parlera également de cette équipe des Pays-Bas qui est décimée puisque en plus des forfaits comme De Jong, il y a un virus qui circule donc il y aurait aussi plein d'autres absents comme Gakpo devant.
Ah, Gakpo aussi.
Ouais. Comme De Ligt aussi derrière. Donc voilà.
Il
est force
de la chatasse à la dèche.
Oui, mais arrêtez avec ça.
Ah bah là, excuse-moi.
Arrêtez avec ça parce que si elle existe, Kolo Muani il marque en finale de Coupe du Monde. Voilà.
Oh bah écoute, la chatasse, la chatasse, on l'a eu pendant 10 minutes à la fin.
On a eu le virus en finale pour expliquer les 80 minutes.
Faire le match qu'on a fait pendant 80 minutes et limite, on va le gagner.
T'as vu la tête de Rabiot, il était forcément malade.
Moi, Jean-Louis, est-ce que tu aimerais que Deschamps soit sélectionneur de l'équipe de France soit entraîneur du Paris Saint-Germain, pardon.
Hein?
Je me suis pas posé la question là tout de suite.
Attends, mais ça pourra...
Moi aujourd'hui je suis dans un tel état de dépression sur l'entraînement du PSG que je peux dire n'importe qui franchement.
Je vais te répondre sous le. Oui. Je vais prendre le devant. Hors de question. Hors de question. Et moi je peux te dire qu'il pourra jamais.
Ah bon
bah, si demain il ose faire ça. Je sors la discussion
Deschamps gagne, le Paris Saint-Germain, ils ont besoin d'un entraîneur qui gagne.
Mais Didier Deschamps, le Marseillais qu'il est. Avait une telle haine envers le Paris Saint-Germain qu'il est hors de question de le voir arriver au PSG.
Mais toi, c'était le PSG de l'époque.
Et c'est très bien comme ça.
Ah oui, c'était un autre
c'est très
PSG,
bien comme ça.
Un autre football.
Non, mais arrête. Le PSG, c'est le PSG. Le PSG, c'est le même que dans les.
C'est juste que toi,
1970,
quand il t'a conseillé, quand t'as fait Monaco-PSG, c'était pas le même PSG à cette époque-là. C'est vrai que c'était un choix un peu curieux. Il avait raison à la quoi quand même.
Mais c'est l'histoire qui est comme ça. J'ai réalisé un rêve de gosse, peu importe. Mais c'est comme Zizou, du gars.
Zizou, il est Marseillais. Sa famille vit à Marseille. Deschamps, il vit pas à Marseille. Il est pas Marseillais.
Bah, il a soulevé la Ligue des Champions quand même.
Il a soulevé quel trophée avec l'OM et quel trophée quand il est devenu entraîneur. Il a soulevé. Il a gagné.
Il serait pas capable d'y aller.
Ah si, moi je pense
qu'il serait capable d'y aller, mais il est capable de tout. Mais moi je te dis que
est-ce que ce serait une bonne
chose. Moi j'en veux pas, je mets mon veto.
Mais t'en veux pas, mais en tant qu'entraîneur.
Mais demain je prends l'avion, je vais direct voir l'émir. Alors
moi je parle au supporter du Paris Saint-Germain, c'est
vu la Coupe du monde. De quoi?
Vous êtes supporter du Paris Saint-Germain, je vous pose la question.
J'en veux pas.
Est-ce que Deschamps, vous le voudriez comme
entraîneur? Non, jamais, mais non. Mais jamais.
Mais pourquoi?
Jamais. Mais pourquoi?
Il gagne.
Mais arrête, arrête avec qui gagne. Arrête, arrête.
Ah donc, Jean-Louis, tu serais pas contre toi?
Non, mais bah, franchement, je suis
plutôt contre. Non, mais Didier. Et franchement, il a tout ce qu'il a touché, il a gagné. Il a la bonne étoile au-dessus de sa tête, donc moi je dis bravo. Mais pas à Paris, c'est tout.
Ouais, si tu me signes qu'il gagne la Ligue des Champions, qu'il soit Marseille ou pas, c'est pas grave. Hein.
Écoute, c'est comme si moi demain, avec ce que j'ai dit et la rivalité que j'avais avec l'Olympique de Marseille, toi, demain on me propose un poste à l'OM et je dis non. Non, il faut respecter les supporters marseillais.
Toi, c'est aller beaucoup plus loin, Jérôme.
Mais non, mais
bah si, ils allaient beaucoup plus loin.
Ils allaient beaucoup plus loin.
Ah oui, tu leur as fait des doigts d'honneur, toi.
Bah oui, quand même.
Mais n'importe quoi. Avec tout ce que j'ai pris dans la tronche, écoute, franchement, j'ai pas fait grand chose.
Ils te l'ont bien rendu.
Dans une seconde, messieurs.
J'ai encore des crocs. Je les adore, par contre.
Ah maintenant tu les adores.
Je trouve que c'est fabuleux ce qu'ils font du Stade Vélodrome.
T'aurais bien aimé jouer à Marseille en fait.
Non, j'aimerais que l'ambiance qu'il y a au Stade Vélodrome soit la même au Parc des Princes.
Je pense que quand t'as pas joué une fois dans ta carrière à Marseille, t'es pas un vrai joueur.
C'est vrai.
Non mais quoi, comme joueur de l'OM?
De quoi?
Bah oui.
Ah, joueur de l'OM, tu dis?
Bah,
mais pas du tout.
Je mets la merde, c'est
mais bon. Non, mais tu mets pas la merde du tout parce que, franchement, le Stade Vélodrome était magnifique. Et ce qui est plus beau, c'est d'avoir gagné avec tous les clubs où je suis passé au Stade Vélodrome.
Ah, oui, il est fier d'avoir éteint le Vélodrome.
Ah, je les ai éteints, mais alors combien de fois? Et je vous embrasse, je vous adore.
Allez, on ira vérifier quand même.
Mais pour en venir, pas Didier Deschamps à Paris. Mais de toute façon, c'est pas d'actu.
Il a un contrat de 4 ans, et puis après, il va replonger pour 10 ans.
J'étais en train de préparer le truc pour remettre Zizou en équipe de France.
Non, mais attends. Du gars, la grande famille 98, là, c'est bon. On s'est déjà tapé Lolo Blanc pendant 4 ans à Paris. Donc c'est bon.
C'est que dans la grande famille, ils sont plus que 5.
T'as pas vu la vidéo de Thuram là qui accompagne enfin ses enfants?
Oui,
c'est magnifique. J'ai vu la larme à l'œil, sincèrement.
C'est magnifique, mais quel rapport avec la discussion? À la famille 98, ouais. Oui, c'est magnifique. Quand il veut prendre des photos avec ses enfants et que Marcus Thuram lui dit non mais papa, on est en retard, faut y aller.
Quand j'ai vu cette vidéo, moi j'ai pris ma voiture pour essayer de croiser Lilian. Ah ouais, je lui ai dit je voulais marquer le coup.
Mais pourquoi?
Parce que Lilian Thuram quand même.
Ah oui,
il emmène le truc avec son chapeau là. De toute façon, j'aurais reconnu, il avait son chapeau.
Allez, dans une seconde, le PSG verra-t-il un jour le Messi de l'Argentine? On en parle avec Georges Quirino, notre correspondant en Argentine.
Quel blagueur ce Jean-Louis.
À tout de suite.
RMC, 18h20, Roten sans flamme.
Jean-Louis Tour, Jérôme Roten.
19h32 sur RMC, toujours dans Roten sans flamme. La dernière demi-heure de Roten sans flamme du soir avec Christophe Dugarry, avec Jean-Louis Tour. On passe un bon moment, on s'est régalé pendant une heure et demie. Il reste encore une demi-heure. Ne ratez pas le quiz de Julien Cazard dans 15 minutes avec un super cadeau à vous faire gagner. Les deux places pour le match de demain aussi.
Ouais.
C'est pas encore tombé.
Il reste 10 minutes.
Et ouais,
donc
alors
vous envoyez euro au 732-16 pour ça. Et pour le quiz, vous envoyez top au 732-16. Il y a des bons d'achat de 1000 euros chez Point P. Si vous avez besoin de faire des travaux ou de la rénovation, vous aurez peut-être 1000 euros grâce à Jérôme et grâce à RMC. Mais si, tout de suite, on y va.
RMC, Roten sans flamme,
le ring des supporters.
Et oui, puisque c'est jour de fête en Argentine, à l'occasion donc du match amical face au Panama, les champions du monde vont être largement célébrés. Le match est à minuit et demi heure française, mais le stade est déjà ouvert. On va vous raconter tout ça, et surtout on va débattre autour de Lionel Messi, parce que depuis quelques jours, depuis qu'il est de retour en Argentine, il est hyper sollicité, mais il est aussi hyper souriant, des sourires qu'on ne voit pas sur son visage à Paris. Alors est-ce que vous croyez qu'un jour on verra peut-être au PSG le Messi de l'Argentine? Avant de donner la parole à Max qui est là pour ce ring des supporters, Georges Quirino est avec nous, notre correspondant à Buenos Aires. Salut Georges.
Salut Georges.
Salut les amis, bonsoir à tous.
Tu es autour du Monumental où aura lieu le match donc tout à l'heure dans quelques heures. Mais le stade est déjà ouvert, non?
Alors le match commence dans 5 heures et là les premiers supporters sont devant les barrières, enfin les premiers supporters, ils sont déjà des milliers en fait, des milliers de supporters pour voir ce match amical face au Panama qui est juste une excuse pour fêter les champions du monde tout à l'heure, et ça va être une fête incroyable, feu d'artifice, show musical. On a vu que toute la semaine ça a été une interrogation pour savoir comment les joueurs allaient réussir à arriver jusqu'au stade, parce que vous vous souvenez des 5 millions de personnes qu'il y avait eu dans les rues de Buenos Aires en décembre dernier, et ça leur a permis d'accéder jusqu'au centre-ville pour montrer le trophée. Là, il y a eu un secret d'État toute la semaine, et en fait, ils sont arrivés à l'intérieur de vannes blancs complètement discrets jusqu'au stade. Donc voilà, c'est ça la carte postale ici à l'Estadio Monumental, où on s'attend ce soir à une fête énorme, à la fête de Lionel Messi comme champion du monde avec l'Argentine.
Oui, alors donc Messi, raconte-nous un peu les différentes scènes qui ont pu être vues depuis quelques jours, depuis qu'il est de retour en Argentine.
Très souriant, comme à chaque fois qu'il vient avec l'Argentine. C'était déjà le cas après avoir gagné la Copa América, mais c'est vrai que c'est encore plus observé depuis qu'il a gagné la Coupe du Monde. On a vu les scènes qu'on avait presque jamais vues, peut-être ici en Argentine. Vous savez, c'est un rassemblement un peu particulier. Les joueurs peuvent sortir le soir, par exemple. C'est un peu le Club Med, hein, pour tout vous dire. Et Messi, il est sorti au restaurant, par exemple, dans le centre-ville de Buenos Aires, à Palermo, dans le quartier. Vous l'avez peut-être vu, il y avait des centaines de personnes dehors. Il est sorti, lui, après le repas, pour avoir ce bain de foule. Il le voulait. On l'a vu souriant, c'est ce qu'il souhaitait. Et toute la semaine, ça a été comme ça. Le soir, où il sortait en voiture, il était poursuivi sur l'autoroute. À chaque fois, toujours disponible pour les supporters. Voilà, il vit des moments qu'il a toujours rêvé, je pense, ici en Argentine.
Qu'il y retourne.
Mes confrères disaient... non, mais beaucoup de mes confrères me disaient quelque chose qui, je pense, est assez juste, du gars. C'est... Il vit, en fait, ses jours maradoniens, Messi, d'une certaine façon. C'est-à-dire, voilà, la popularité, ouais, comme l'a eu Maradona à une époque, bah, il l'a, ça, il l'a désormais, Messi.
Ah, oui. Donc du coup, j'imagine que personne ne croit un jour avoir le Messi de l'Argentine au PSG, un Messi aussi épanoui. On va voir ce qu'en pense Max, qui nous rejoint dans le ring des supporters, Jérôme.
Salut Max.
Salut à tous, bonsoir. Et
bienvenue.
Bonsoir Max.
Merci beaucoup.
Bon Max, alors qu'est-ce que tu penses de tout ce que nous racontait...
Les deux visages de Messi en fait.
Georges là, les deux visages, est-ce que tu y crois un jour à Paris ou pas?
Alors, ce que je me permets de dire, c'est que je suis franco-argentin. Donc, j'ai un peu les deux
personne
côtés.
Personne n'est parfait, rassure-toi.
ouais, c'est ça. Personne a trois étoiles de champion du monde, hein, du gars.
Exactement. Voilà. Et donc,
t'en as cinq, hein, si t'es franco-argentin.
Ouais, ça, c'est vrai, c'est pas faux. Enfin, tu vois, finalement, je suis bien loti.
Et moi, j'ai tous les râteliers, il est bon, sur la tête.
Non, mais du coup, par rapport à Messi, moi, la chose qui pour moi est très important de comprendre, c'est Messi, bon, à l'âge qu'il a, je pense que ce qu'on voit à Paris depuis le début de la saison, c'est son niveau médian, c'est-à-dire son niveau normal, tu vois. C'est le niveau d'un joueur exceptionnel techniquement, mais qui, à l'âge qu'il a. Pour voir plus, il faut qu'il y ait quelque chose de mentalement qui soit plus présent. Je pense que Messi, le seul moment où il arrive à retrouver un niveau stratosphérique, c'est ce qu'on a vu à la Coupe du Monde, c'est quand il a quelque chose qui le passionne profondément. Il n'y a jamais quelque chose qui l'a passionné plus que la sélection argentine.
Ouais, même
si à
une
époque, on pensait que c'était le contraire.
Il n'y a pas si longtemps que ça, il avait arrêté.
Mais justement, mais pourquoi il avait arrêté, du gars? Rappelle-toi ses larmes, c'était parce qu'il n'en pouvait plus perdre, parce qu'il y avait eu ces trois finales perdues de suite, parce que c'était un crève-cœur.
Et puis parce qu'il y avait beaucoup de critiques aussi là-bas, en Argentine.
Hein. T'as raison, Jérôme, mais une grosse, grosse pression. Et là, en fait, du coup, tu te dis, mais si, qu'est-ce qu'il lui faut maintenant? Il faut quelque chose qui le fasse rêver, il faut le faire bander un peu, tu vois. Bon, ouais. C'est ça, mais s'il a besoin de ça pour donner plus. Et le truc, c'est qu'à Paris, même Kylian, même Kylian Mbappé, il le dit en interview, il dit, ouais, de toute façon, notre niveau maximum, c'est 8e de finale de Ligue des Champions. Mais comment tu veux exciter un joueur comme Messi avec une équipe qui ne peut pas faire plus que 8e de finale de Ligue des Champions? Si demain, tu lui...
Donc attends, si je te suis bien, Max, c'est plus une question sportive. Ce n'est pas une question de cœur, forcément.
Non, c'est une question, je pense, d'emballement. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que tu arrives à t'emballer? Qu'est-ce qui fait que tu arrives à émotionnellement t'investir dans un projet? Bon, bah, l'Argentine, évidemment, pour lui, c'est le cœur, c'est le sang.
Mais je suis d'accord avec toi, mais c'est le seul responsable. C'est à lui d'aller chercher le projet qui va le faire vibrer. Parce que moi je comprends pas. Sincèrement, je comprends pas ce genre de joueur. Après, qu'on retrouve pas le Mbappé au Paris Saint-Germain, avec l'Argentine ou avec le Barça, c'est normal. Il a pas le même cœur, il a pas le même attachement. Ça me choque pas dans l'absolu, ça me choque pas. Mais si il arrive à un âge où il a envie de vivre ces émotions-là, mec, arrête de penser à l'oseille et va jouer.
Bah exactement, c'est ce que j'allais dire.
Tu vas kiffer, vibrer tous les week-ends, à chaque entraînement. Voilà, c'est lui le responsable.
Oui, mais sauf que malheureusement, je pense qu'il peut pas le faire parce que peut-être qu'il a trop donné avant.
Il manque un peu d'oseille encore. Tu veux,
non, pas du tout. Je pense pas. Je pense pas qu'il soit.
Chacun est libre de ses choix.
Non, parce que faire ce que a fait Cristiano Ronaldo, par exemple, aller jouer en Arabie Saoudite, je pense que ça lui demande quand même un effort, mais ça demande de la passion pour le football. Parce que sinon, Ronaldo, il fait
mais
pas que.
Il joue en Argentine.
Oui, mais.
Qui retourne au Barça s'il veut. Mais là où il est bien, avec ce qu'il a. Mais avec ce qu'il a fait dans sa carrière, va où t'es bien.
Pourquoi tu dis qu'il peut pas aller en Argentine, Max?
Bah, t'as vu ce qui s'est passé juste parce qu'il est allé au resto? Ouais. Imagine le bordel. Les gens là-bas le disent. Les journalistes sur place en Argentine disent, Messi ne peut pas retourner en Argentine parce que ce serait trop, en fait.
Ouais.
Tu vois, il y aurait trop de bordel autour de lui.
Il retourne au Barça. C'est ce qu'il au Barça.
Voilà, Barcelone, ou sinon, tu fais comme Ronaldo, si tu veux, tu vas aux États-Unis.
Ouais, les gars, excusez-moi, mais le Paris a un peu d'argent, non? Et qui retourne au Barça et que Paris fasse une équipe cohérente, construise un collectif cohérent. Parce que c'est pas que Messi, tu peux dire Messi, oui,
non,
mais regarde l'effectif autour.
Max, le problème, c'est que
je suis venu à Paris pour les mauvaises raisons.
Exactement. Après, moi, je comprends plus ou moins ce que tu dis. C'est que bien sûr que c'est un joueur. Moi, quand je l'attaque, j'attaque pas Léo Messi, le technicien. Dire, il y a personne qui peut attaquer Léo Messi. Dire Léo Messi, il a tout gagné, il a tout pro. Peut-être que c'est le plus grand, toute génération confondue, joueur de football. C'est énorme, il a tout gagné, tout. Maintenant, c'est juste l'investissement. Je pense que quand tu représentes autant en termes d'aura, de poids dans un club, parce qu'on te paye aussi pour ça, tu te dois au PSG ou ailleurs d'être investi différemment. Tu peux pas accepter, je te jure, moi je fais tous les matchs au Parc des Princes et je suis pas le seul, mais tu peux pas accepter le voir baisser la tête. Tu sais, quand tu parlais, oui, mais il doit on doit le faire bander par rapport aux objectifs. Mais franchement, qu'est-ce qu'il y a de plus excitant de faire gagner la première Ligue des Champions au Paris Saint-Germain?
Mais ça peut pas être excitant quand tu sais que tu peux pas le faire. Jérôme, quand t'es à l'intérieur du vestiaire, quand tu vois cet effectif, et Mbappé l'a dit lui-même, il le sent.
Mais alors pourquoi il s'en va pas? Pourquoi il s'en va pas?
Pourquoi est-ce qu'Mbappé s'en va pas?
Non, mais Kylian, tu le vois, Kylian, il est resté pour essayer de faire gagner le PSG. Après, il y arrivera, oui ou non, mais il met tout. Mais est-ce que t'as l'impression, franchement, que Messi, même s'il est déçu de quand il regarde le vestiaire, de qui joue derrière lui, est-ce que t'as l'impression qu'il est investi quand même comme il devrait?
J'ai pas forcément l'impression qu'il est investi comme il devrait. Cela étant, rappelle-toi quel type de joueur c'était Messi, même à Barcelone, même dans son prime. Messi, ça a jamais été le mec qui gueulait sur les autres. Allez les gars,
c'est
le mec qui se tait et qui fait ce qu'il a à faire sur le terrain. Là, il le fait moins, il arrive moins à le faire. Bon, bah, écoute, si le PSG avait besoin de leader, fallait pas aller chercher Messi. Hein.
Non, mais on est d'accord. Mais après, attention, hein. On lui a proposé, lui, il est venu, il a disposé, il y a pas de souci. Moi, ce que je reproche, c'est que au bout d'un an, t'as vu. Tu sais ce que tu peux faire et ce que tu peux pas faire. Peut-être qu'il a pas l'énergie pour, et ça pourrait se comprendre. Et moi, j'aurais apprécié qu'ils disent au bout d'un an, écoutez, j'ai un contrat de 2 ans, vous savez quoi? J'ai gagné beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent, mais je peux pas. Vous me demandez trop, les critiques, les ceci. Écoute, je vais aller ailleurs et je vais, alors, comme tu dis, peut-être qu'en Argentine, tu peux pas y aller, mais tu peux aller aux États-Unis. Va développer un pays, le football aux États-Unis, comme Ronaldo le fait en Arabie Saoudite. Ils ont ces rôles-là aujourd'hui. Ouais. C'est plus que des joueurs de foot, ces mecs-là.
On remercie Max, qui est venu au 32-16.
Merci
donc,
Max, en tout cas.
Des supporters. Et on revient dans une seconde pour le quiz avec Julien Cazard qui est de retour. On remercie également Georges Quirino à Buenos Aires.
Ah oui, Georges Quirino Chavez qui est excellent.
Excellent et qui va faire une grande soirée de festivités là, avec le match à minuit.
En termes de correspondant, je crois que il est au-dessus. Hein,
ah ouais?
Bah lui, c'est ce qu'il pense. Est-ce que
tu crois que c'est ce qu'il pense? Non, ouais, il est très très humble, Georges.
Non, bah à l'antenne, oui, mais pas en privé.
Ah,
en privé, il écrase tout.
Hein. Ah bon?
Ah ouais.
Allez, à tout de suite pour le.
Il est un peu comme toi.
Non, rien à voir.
RMC 18h-20h.
Rotel sans flamme. RMC.fr et appli RMC.
RMC en direct, partout, tout le temps.
Du gars, il ose me dire.
Mais qu'est-ce que ça veut dire, il écrase
Jean,
tout le monde.
Jean-Louis, il ose me dire qu'il écrase pas tout le monde. En privé, oui, en privé, tu me dis que t'es le meilleur.
Il a le boulard, tu veux dire?
Ouais, bah qu'il se sent au-dessus des autres.
N'importe quoi. Gentil, Jean-Louis, c'est un nounours.
Merci,
du gars. C'est un gentil, mais je peux dire.
T'entends, Jérôme?
Ah bah, c'est vrai que quand tu préparais les émissions, toi à l'époque, tu t'allais pas souvent là-haut pour préparer. Mais moi, je le vois faire.
Non, mais il a un charisme naturel, donc c'est vrai que quand t'es face à lui, tu t'hésites, tu vois. Et à l'arrivée, tu lui laisses prendre le leadership. Jean-Louis mérite le brassard.
Est-ce que c'est normal qu'ils disent à JC Drouet ou à Benoît Boutron, allez me chercher un café et tout? Non, mais franchement, c'est pas normal.
C'est fou. Ouais. Quoi. J'ai amené un café à Nico Villas hier. Tu vois. Et puis JC, faut qu'il soit au bureau pour lui amener un café. Il est au golf. Ça, c'est comme du gars. Donc c'est pas facile. Hein.
C'est pas faux.
Les golfeurs, ils sont difficiles à dire.
JC, l'avantage, c'est que tu vois s'il fait beau ou pas. Dès qu'il y a un rayon de soleil, t'as l'impression qu'il le prend direct. Bah, oui, ça. Tu m'étonnes, il passe sa vie au golf.
On l'embrasse, JC, les grandes gueules du sport, émission de référence, les week-ends, 9h30.
Pas de référence, je sais pas.
Il travaille 2 jours par semaine.
RMC, 18h20, Roten sans flamme.
Jean-Louis Tour, Jérôme Roten.
19h47 sur RMC, les 10 dernières minutes de Roten sans flamme du soir. Et qui dit les 10 dernières minutes, c'est mon moment préféré. C'est le quiz de Julien Cazin, un super cadeau à vous faire gagner. On est là avec Jean-Louis Tour qui sera mon joker. En espérant, ça fait 15 jours qu'il n'a pas donné une bonne réponse. Et contre une équipe formée par Christophe Dugarry et un renfort de poids.
Il est là ?
Un renfort de poids.
Et qui est là, le Pascal où ?
Pascal ?
Pascal Olmed.
Eh oui, Pascal, il est là, Pascal Olmed.
Il est là. Ah, là, là.
Salut Pascal.
Il adore faire perdre Jérôme.
Adieu. Adieu les amis. Ah, Pascal. Ça va ou quoi ?
Bah, ça va.
Ça va très bien.
Allez, on y va.
C'était une journée.
Oui, on peut enlever le putain, Pascal, encore une fois. Je l'ai déjà dit dans la semaine. Merci.
Ah oui, c'est vrai.
Je sais que c'est une ponctuation chez vous, mais quand même, il faut faire un petit effort.
Et deux fois, il
reste. Il continue. Allez, on y va.
Tu as raison, tu as raison.
Roten contre le reste du monde, saison 2.
Jean-Louis.
Oui.
Ça me fait vraiment chier que je dise ça.
C'est vrai, c'est Julien, tu peux reprendre la main, s'il te plaît.
C'est pas possible.
Oh, Dieu, dis-lui. Allô, Jean-Louis. Le problème, c'est
non,
que quand je
fais.
Oui.
Mais
qui est-ce
Alors, on va gagner.
Et Katsar, on va chez Soto Scooter. Écoute, on va commencer avec par dire qui joue avec nous déjà.
Oui, nous avons Jean-Marc et Stéphane qui sont là. Bonsoir à tous les deux.
Bonsoir.
Salut les gars. Vous avez prévu des travaux chez vous là?
Ah,
bon, bah, ça tombe bien, on a un bon d'achat de 1000 euros chez Point P, donc à vous offrir.
Ah, bah, ça tombe bien.
Jean-Marc, oui. Équipe Roten ou reste du monde?
Équipe Roten.
Ah, oui,
j'ai une petite anecdote, mon frère, il a joué avec lui quand il était à 3.
C'est vrai? Alors, comment il s'appelle?
Il s'appelle Doumé.
Doumé comment?
Doumé Mendy.
Ah oui, bien sûr, bah oui.
Et j'ai envie de dire bonjour.
Je t'en souviens pas.
Ah, si, si, je me souviens. Bien sûr que je m'en souviens.
Non, mais lui, déjà, il a du mal à se rappeler de Bernard Mendy. Là, s'il te rappelle tous les Mendy avec qui il a joué.
Mais non, il jouait derrière.
Il jouait derrière. Bah, tu prends pas un grand risque. Plus, tu le voyais pas devant, tu te dis, il doit être derrière.
Il jouait derrière moi.
Il était tout jeune.
Vous savez quoi? Je vous rappelle qu'il y a le podcast On s'en tape qui est tous les jours possible à trouver sur le site de RMC.
Ouais, ouais. Allez, vas-y, commence le quiz.
Allez, question flash.
Allez.
Dans quel club francilien jouaient ensemble les frères Thuram?
Hein?
Dans quel club francilien
jouaient ensemble les frères Thuram?
Boulogne-Billancourt.
ACBB, Boulogne-Billancourt. Bonne réponse de Christophe Dugarry, qui ne sait même pas ce que c'est que ce club.
Il ne sait même pas qui sont les filles de Lyon.
Je les ai vus grandir les deux, mais bien sûr. Bien sûr, ACBB qui a vu.
Tu les ai vus grandir avec Utusage où ils ont joué. Alors ça, j'y crois pas une seconde.
Jean-Louis. Oui, quand même, la CBB, les frères Thuram, le fils de Platini, moi, ouais, des grands joueurs qui sont passés par ce club. Qu'est-ce qu'ils rigolent,
on découvre quand même que Antoine aide à la fois Duga et Pascal.
Non, mais c'est dingue.
Ah bon, il fait des infidélités à Pascal.
Non, que j'ai dit à Antoine, arrête d'aider Pascal. Du coup, il est
carrément. Déconnez pas, vous me demandez.
Oh, et attendez, qui est l'intru? Oh là, alors là, qui est l'intru? Qui est l'intru? Vous êtes prêts? Attention, qui est l'intru? Tu as compris, Duga, ce que c'était, qui est l'intru?
Il
faut trouver l'intru et pourquoi? Attention, il y a une thématique globale du moment. Italie, France, Espagne, Allemagne.
Ah, c'est facile. On s'appelle pour donner la réponse parce que. Ouais.
Italie, France, Espagne, Allemagne.
Italie.
C'est mon fils qui joue avec la minuterie.
Italie.
Italie, pas du tout.
Non.
C'est lié à l'euro, ça peut vous aider parce que vous allez un peu être.
L'Allemagne n'est pas champion d'Europe?
Non. Alors l'Allemagne, elle a gagné l'euro, elle t'embrasse d'ailleurs. Mais c'est, y a peut-être, oui, mais y a, c'est lié à ça.
Écoute.
Une fois. Deux mais fois.
C'est quoi les clubs, vas-y, les pays?
Italie, France, Espagne, Allemagne. Attention, bientôt c'est fini.
Italie, hein. Italie.
Eh ben voilà, c'est pas ça. Ça fait toujours. Bon, eh ben l'Allemagne, c'était l'Allemagne qui n'a pas gagné l'euro à domicile. Ah, eh oui, oh, oui, oh, oui, vous ne l'aviez pas, oh, vous êtes un peu trop nul, comme on dit dans le jargon.
Le prochain euro, il est en Allemagne.
Oui, mais ils l'ont gagné déjà. Ah, ils l'ont gagné. Ah, d'accord, alors, bah, j'étais pas
1-0
au
courant, toujours pour le reste du monde.
Kikawejis.
On avait pris un joker, 2-0.
T'en es pas un mot de joker, toi. Allez, Kikawejis, OM, Metz, Nantes.
Qui reste non.
Rennes.
Pouget, non.
Lyon, Bordeaux.
Putain, il a joué celui-là. Hein.
Ouais. Arsenal.
Ah. Wiltord.
Wiltord, bonne réponse. Oh, ah, c'était Jérôme. Chaud. Oh, bonne réponse.
Ah, je suis allé plus vite qu'Antoine Barnier.
Antoine Barnier, mais il faut qu'il écrit, il faut qu'il crie dans l'oreille et tout, il faut que l'autre y comprenne.
Wow.
Attention, question, que qui écoute?
Jean-Marc. Donc, c'est les auditeurs. Stéphane.
Attention, il y a un jeu de mots. Quel champion d'Europe de 2000,
oui,
collègue de Christophe, mm-hmm, avait un très petit espace entre la tête et le buste?
Micro, Anelka, Pires.
Mais non, il peut pas la fermer. Il y a c'est que qui écoute, c'est que les auditeurs.
Ah. Il y a point pour
moi. Point pour moi. Il a donné.
C'est quoi la question ?
Alors voilà, vouloir donner. Quel champion d'Europe 2000 avait un très petit espace entre la tête et le buste ?
Miku, non. Pas
Miku, bonne réponse, Kali Miku.
Miku, ouais, c'est
Jean-Marc. Il avait un Miku. Il avait un Miku. Ah, bah.
Jean-Marc est avec moi.
2-1 pour Jérôme.
Allez, question à le méta, parce que là, c'est trop dangereux. Là. Question à le méta.
Mais la question à le méta, soit tu réponds bien, soit.
Je vais chier sur ton scooter.
Et ça fait un point en moins.
Jérôme, tu essaies de répondre.
Vas-y.
Demain, qui joue contre la Grèce ?
Gibraltar.
Bonne réponse de Jérôme Rotten, un point en plus. Oh, c'est chaud ! C'est
incroyable.
Attention, qui que c'est-il donc ? C'est une charade.
Ils sont dans notre groupe.
Oui, c'est pour ça que je te demande. Mon premier.
Un joker, je prends un joker.
Un joker ! Ouais, mais c'est Coach Courbis qui doit le faire.
J'ai pas le tableau de boulet.
Bon, alors c'est Jean-Louis qui va faire Coach Courbis.
Il est pas mal ce Choumali.
Bon, attention. Mon premier. Ou Colomani, comme disait un certain Christophe Dugarry. Hey, Colomani, il est bien. Mon premier, c'est la situation du PSG chaque année en mars. Mon deuxième est une photo pour les faux jeunes. Mon troisième, c'est le nom de Dieu en Jamaïque. Mon quatrième se met dans les cornflakes. Et mon tout était dans les 23 à l'Euro 2016. Il n'a pas joué beaucoup. Mon premier, c'est la situation du PSG chaque année en mois de mars.
Mon deuxième, j'allais.
Christophe Jallet, qui a rédigé Jallet en premier ?
C'est moi.
Et il était là, Pascal.
Oui,
Chris. Chris, une toffe, Ja et le lait dans les cornflakes. Christophe Jallet, bravo. Oui. Mais oui, quelle Christophe perspicacité, Pascal.
Là, c'est incroyable.
Ouais, était l'euro. Ouais. Il n'a pas joué beaucoup. Hein.
Ouais, ouais. 3-2 pour Jérôme.
Maintenant, on va faire un kick en dit plus, c'est une enchère. Vous allez, combien pouvez-vous me donner de buteurs dans le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire de l'euro ? Tout, c'est pas genre, ils ont été meilleurs buteurs pendant un euro. Ils ont marqué le plus de buts dans les euros dans lesquels ils ont joué. Donc le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire de l'euro. Combien pouvez-vous m'en donner ?
Jérôme,
2. Oula, qu'est-ce qui se passe ?
Dugas, allô. Pascal, coupe la vidéo, merci.
Dugas, Pascal, t'as pas donné combien ?
3, vas-y.
3, Jérôme, allez, vite.
Il y en a combien ?
Il y en a 10 dans le top 10. Moi, j'en ai calculé. Dans le top 10, j'en ai calculé 10, moi.
Bah, 4.
Le jingle 4, ok, à toi du gars.
Non, je
Pascal, t'en as bien 10 toi, j'imagine. Non, t'en as combien, Pascal? Non, il en a pas. Allez, Jérôme, lance-toi.
Putain.
Il était pas, lui.
Griezmann,
c'est bon. 1.
Schirrer,
c'est bon. 2. C'est énorme, ça.
Ouais. Cluivert.
Cluivert, 3. Ah, dans
oui,
mon cas.
Cluivert, c'est sûr.
Ouais, on dit Cluivert.
Platini, évidemment. Platini qui en a mis 9 dans le même euro. Oui. Il y avait Ronaldo, Van Nistelrooy, Lukaku, Morata, Henri et Rooney. C'est chaud.
5-2, dernière question.
Bravo. Question. Vous êtes prêts ? Question à 3 points.
À 3 points ? Mais ça va question. Pas.
Mais je prends un joker. Prends un joker.
Ouah, il a un deuxième joker.
Ouais, mais les jokers, c'est Jean-Louis, gros.
Jean-Louis Tour ?
Mais non, pas Jean-Louis Tour, elle est même tout fragile de Compiègne. Non, Jean-Louis d'Inefra, Jean-Louis le Tarba. C'est Jean-Louis le fou,
là,
Jean-Louis
sa mère. Eh, Jean-Louis, il est là, frère ?
Ouais, ouais.
Ah non, c'est pas, c'est Jean-Louis de quoi, ça ? C'est Jean-Louis le bourgeois, ça ?
Ouais,
allez, attention. D'où que c'est qu'il est-il ? Vous allez me donner pour 3 points de quel championnat se trouve l'équipe de Saint-Mirren ?
Écosse,
victoire de Jérôme Rotten.
Bravo Jérôme, on remercie Pascal Olmeta d'être venu.
Merci Pascal, reviens quand tu veux.
On félicite Jean-Marc qui gagne.
Bravo Jean-Marc.
Rotten contre le reste du monde sur RMC avec Point P, 235 showrooms partout en France pour vous accompagner dans la réussite de vos projets de rénovation intérieure et extérieure. Rendez-vous sur pointp.fr.
Génération After dans une seconde avec Nico Villas et toute son équipe. Et on est de retour demain, spécial France-Pays-Bas.
Spécial France-Pays-Bas. Merci Jean-Louis, merci Duga, bien sûr. Merci à Pascal Olmeta d'avoir participé au quiz, mais manque de bol, il a perdu. Voilà, encore une fois, merci beaucoup pour votre fidélité. On s'est régalé, on se régale cette semaine et bien sûr, rendez-vous demain pour un Rotten sans flamme spécial Euro 2024, bien sûr, avec ce France-Pays-Bas. On est là, on lancera ce match-là. Soyez bien au rendez-vous et n'oubliez pas, les podcasts sont déjà dispo. Allez-y, refaites-vous toutes les émissions et toutes les grandes interviews. Bisous, à demain 18h.
RMC jusqu'à 20h.
Rotten sans flamme.
Retrouvez Roten sans flamme en direct chaque jour dès 18h sur RMC.